Pourquoi les gens essaient toujours à s'asseoir? Je pense qu'ils ont peur de finir comme illustration. Non, je vous toucherai pas, je vous... Non, c'est pas trop en avant, c'est pas trop en avant. À moins que vous vouliez venir ici... Good, good, good. Je suis content d'être avec vous. C'est agréable pour moi d'être ici. Je redécouvre l'Assemblée des Frères. Ce que certains d'entre vous ne savaient peut-être pas, c'est que bien que je sois pasteur et un pasteur associé beaucoup plus à l'Église Nouvelle Vie à Longueuil, mais ma conversion il y a 44 ans, c'était dans une Église des Frères dans la superbe ville de Drummondville. Je pense que l'église n'existe plus. Du moins, en tout cas, le bâtiment n'existe plus sur le boulevard Mercure à l'époque. Donc, j'ai une culture originelle de rattacher aux Églises des Frères. Je suis content d'être avec vous aussi pour ce thème particulier. Bon, ceux qui ne me connaissent pas, je suis effectivement dans le ministère depuis une quarantaine d'années maintenant. La particularité du ministère, c'est que je suis à la fois pasteur, mais je suis à la fois aussi psychothérapeute. Je viens de l'époque où ça n'existait pas et où les années ont été difficiles avant que l'Église découvre l'importance de prendre soin et d'aider les gens et tout cela. Ce que je fais, je suis associé à l'Église Nouvelle Vie depuis 25 ans maintenant, mais j'ai roulé ma bosse de Drummondville à Sherbrooke et je suis sur la rive sud de Montréal depuis un petit peu plus de 25 ans maintenant. J'ai mis sur pied à l'Église Nouvelle Vie, donc j'ai connu le début de l'Église Nouvelle Vie avec 75 personnes. Automne 1993 et je suis déménagé en 1994 et ma tâche à Nouvelle-Vie a été de travailler à la dimension hôpital spirituel de l'Église. Donc, j'ai mis sur pied le département des soins pastoraux et relations d'aide à Nouvelle-Vie que j'ai dirigé pendant 15 ans. Donc, à l'époque, c'était nouveau, c'était même inusité de toute cette notion de prendre soin des gens. Je me souviens que parfois, je mettais une petite pub au bas du bulletin de l'Église le dimanche, où aller chercher de l'aide, c'est pas péché. Mais la culture de l'époque, c'était avec Jésus tout seul, on n'a pas besoin de personne. Même à la limite, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Donc, c'était un peu ce que je me faisais lancer au visage à l'époque. Mais les temps ont bien changé. Maintenant, c'est habituellement assez bien établi. Les gens ont compris que ça va être d'ailleurs le thème de ce matin, que le bonheur n'est pas quelque chose d'instantané et que parfois la vie est difficile et il y a des problèmes aussi. Ce que je peux vous rajouter, c'est qu'il est arrivé un drame dans ma vie en 2010. J'ai perdu mon épouse, c'est-à-dire la mère de mes enfants, de mes quatre garçons, qui sont tous adultes maintenant. C'était une période très, très difficile. Donc, j'avais été marié 31 ans. J'ai été foudroyé littéralement par un cancer qui a été assez expéditif à l'intérieur de 4 mois. Je suis remarié. J'ai été 3 ans veuf, un petit peu moins de 3 ans veuf. Je n'avais pas prévu de me remarier. Pourquoi? Pas parce que j'avais été malheureux dans mon premier mariage. Parce qu'après 31 ans, tu sais c'est quoi? Et moi, je dis souvent, c'est juste ceux qui ne sont pas mariés qui veulent se marier. Ceux qui sont mariés, ils ne veulent plus. Ils savent ce que c'est. Non, mais la réalité, c'est que c'est fait partie un peu de l'histoire familiale. Ma mère est devenue veuve à l'âge de 42 ans. Donc, mon père est décédé, il avait 49 ans. Moi, j'avais 8 ans. J'étais le 4e garçon d'une famille de 4 garçons. Et ma mère ne s'est jamais remariée parce qu'elle croyait, elle avait la conviction qu'elle ne retrouverait pas un homme comme mon père, comme son mari. Et effectivement, ils ont eu un très bon mariage et ça a été une tragédie pour la famille au complet. Dans ma propre vie, ça a déconstruit une partie de ma vie, en tout cas du moins durant la période d'adolescence. Et ma mère ne s'est pas remariée. Et après la période de veuvage, comme on dit, après la période de deuil qui a duré à peu près 2 ans, ma mère a réémergé de l'autre côté de cette épreuve-là. Et elle a eu une belle vie, seule. Et donc, je n'ai pas eu une mère qui tournait en rond dans la maison en se disant « je veux un mari ». Elle a fait la paix avec ça, puis elle a pris en charge sa vie. Donc, voyez-vous, j'avais cette espèce de représentation dans ma pensée qui fait que je ne rechercherais pas à me remarier. Bon, et je pense que quelqu'un qui a voulu autrement, puisque j'ai rencontré ma femme actuelle, Marie-Jo, à 15 000 km de chez moi, dans une petite île perdue dans l'océan Indien qui s'appelle l'île de la Réunion, qui est un département français outre-mer. Et on fait le parfait bonheur depuis presque 6 ans maintenant. Et c'est une perle. Et ça vous démontre un petit peu que, encore une fois, le mariage est quelque chose qui fait partie aussi de notre vie. Avec les années, mes années de solitude, quand je dis solitude, pas dans le sens négatif du terme, c'est les années où j'étais tout seul, j'étais bien, j'étais pas malheureux fondamentalement. Ceux qui me connaissent savent que je suis un homme assez occupé, donc je voyage beaucoup, des conférences un peu partout. Mais après m'être remarié, j'ai compris quand même qu'il me manquait quelque chose lorsque j'étais tout seul. On est fait, on va le voir un peu plus tard dans cette journée, on a été constitué, créé pour être en relation, bien sûr les uns avec les autres, mais aussi avec cette tête avec laquelle on peut construire notre vie. Donc, et voilà. Maintenant, depuis 2011, j'ai commencé une transition. Donc, je suis toujours à Nouvelle-Lévis, dans le sens que c'est mon port d'attache. Maintenant, ce que je fais, c'est que je voyage partout un peu à travers la francophonie, à travers aussi le monde hispanophone, puisque mon ministère, pendant un concours de circonstances, s'est développé surtout au Mexique, là-bas. Donc, on a commencé à traduire plein de trucs. Le site web est en espagnol aussi. En fait, je vais à Nouvelle-Lévis, mais je ne vais plus à Nouvelle-Lévis. Je vais à Nueva Vida. C'est l'église, les pendants hispanophones de Nouvelle-Lévis le samedi soir. J'aime cette culture. Donc, tout se développe dans ce sens-là. Donc, je suis maintenant vraiment libre de mes activités. Ce que je fais de plus en plus maintenant, c'est que je produis du matériel. J'aurai l'occasion de vous en reparler cet après-midi. Donc, puisque j'ai plus de responsabilités, tout cela. Donc, c'est un peu de mon parcours actuel. Trêve de présentation. Allons au cœur du sujet d'aujourd'hui. Vivre heureux à deux, est-ce que c'est possible? La réponse, c'est évidemment que c'est possible. D'ailleurs, c'est pour cela, habituellement, qu'on se marie. On veut se marier parce on sent qu'il nous manque quelque chose. On veut se relier à quelqu'un et on croit, originellement, que c'est une valeur ajoutée à notre vie que d'être marié. Sauf que dans beaucoup de cas, la réalité vient nous frapper en disant, oups, je pensais pas que c'était aussi compliqué que cela. Donc, la question est, vivre heureux à deux, est-ce possible? La réponse est oui. Est-ce facile? La réponse est non. C'est pas facile, c'est pas instantané, c'est pas magique. C'est un peu ce qu'on va aborder aujourd'hui au travers de ces trois conférences. Il y a aussi, et je trouve que c'est une excellente initiative, après chacune des conférences, en tout cas du moins pour celle de ce matin, je n'ai pas regardé le planning de cet après-midi, il y a une période de questions où on va pouvoir avoir une vingtaine de minutes pour échanger ensemble, et c'est ce que j'aime le mieux. Moi, j'aime la confrontation avec des questions cruciales, là, c'est-à-dire les vraies choses de la vie. Le problème souvent dans les conférences, tout comme le problème avec les prédications du dimanche, c'est que c'est à sens unique, hein. C'est le prédicateur ou le conférencier qui déverse ce à quoi Dieu l'a inspiré pour les gens, mais il n'y a pas le retour à tout cela. Donc, parfois, il faut ajuster tout ça et c'est à partir des questions qu'on peut réussir à ajuster tout cela. Est-ce que ça va ce matin? Oui, ça vous va? Vivre heureux à deux. Heureux, c'est une très grande question. La première session ce matin, je vais vraiment aborder la question du bonheur, mais pas nécessairement dans une dimension de mariage ou dimension conjugale, mais dans une dimension personnelle, individuelle. Pourquoi? Parce que cette question du bonheur est une question fondamentale dans la vie. Vous allez voir pourquoi dans quelques instants. C'est un thème que je connais bien. Je le connais bien pour deux raisons. Premièrement, par le fait que, comme thérapeute, j'ai rencontré énormément de gens au travers des 40 dernières années et les gens viennent chercher de l'aide parce qu'ils sont, à la base, malheureux. Ils sont soit malheureux dans leur propre vie, ils sont soit malheureux dans leur relation, ils sont soit malheureux à cause de situations du passé, des choses qui originent de leur famille personnelle, leur famille, l'enfance et tout cela. Et les gens cherchent à dénouer des choses dans leur vie. Ils cherchent à guérir, à être rétablis, à se restaurer. Pourquoi? Pour vivre cet état de bien-être qu'on appelle communément le bonheur. Et en second lieu, c'est que c'est un sujet sur lequel je me suis penché. J'ai écrit un livre qui porte sur le bonheur. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez déjà réalisé que le premier sermon que Jésus a prêché sur la surface de la planète, du moins celui qui est documenté, portait sur le bonheur? Dans Matthieu chapitre 5, il y a ce thème des béatitudes. En fait, Matthieu chapitre 5, les béatitudes, c'est l'introduction au sermon sur la montagne, le sermon le plus connu de Jésus. Un sermon sur la montagne qui est très, très large, qui couvre beaucoup d'aspects de la condition et de la réalité humaine. Mais l'introduction au sermon sur la montagne, qu'on appelle les béatitudes, est-ce que vous connaissez les béatitudes? Du moins, vous connaissez le terme. Là, je vais vous demander de lever la main droite. Levez la main droite et dites, Pasteur Denis, je promets de dire toute la vérité, rien que la vérité, juste la vérité. Quels sont ceux qui ont lu les béatitudes? OK? Ça, c'est la question facile. La question difficile, c'est quels sont ceux qui ont compris les béatitudes? C'est pas facile à comprendre parce que c'est une construction, on va les lire dans quelques instants, c'est une construction langagière, c'est une construction de phrase qui est moins orientale. En fait, les béatitudes, c'est un peu les tweets de la vie moderne, de la vie passée, c'est-à-dire que dans une petite phrase, d'à peine, par exemple, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux », c'est court comme phrase, et c'est tous, chacun des béatitudes a la même construction. Mais on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il veut dire au juste? Heureux les pauvres en esprit. On a la version québécoise, heureux les creux, heureux les nuls, hein, heureux les cruches, mais c'est vraiment pas ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Et le problème dans la vie moderne, c'est qu'on lit la phrase, on la comprend pas, mais on ne cherche pas à comprendre. Mais dans ce langage du Moyen-Orient, ça incite les gens à creuser et aller un peu plus loin. Et c'est pas évident dans la vie moderne parce que, vous avez remarqué avec tout ce qui se passe, les réseaux sociaux et tout ça, les gens ne creusent pas, les gens restent en surface, les gens restent en superficie. Donc, ils manquent à la fois d'enracinement dans leur propre vie, ils manquent aussi d'approfondissement dans la réalité de ce qu'on doit comprendre pour pouvoir. Donc, on est toujours dans le léger, on est toujours dans le light, mais ça ne suffit pas à sauver l'âme humaine et bien sûr, à combler les aspirations humaines. Donc, le bonheur, bien sûr qu'il est possible, mais c'est pas facile, c'est pas évident. Le bonheur est une quête universelle. William James, qui est le père de la philosophie de la psychologie américaine, qui date déjà, a dit un jour, comment obtenir le bonheur, le garder, ou le retrouver étant fait pour la plupart des hommes le motif secret qui anime tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils sont prêts à endurer. Autrement dit, la quête du bonheur, c'est une quête qui est universelle. Tout le monde recherche le bonheur. Évidemment, on ne le signifie pas. On ne se prenait pas avec une affiche en disant « je cherche le bonheur, je cherche le bonheur ». Il y a une espèce de réserve ou une espèce de honte même à dire à des gens parfois qu'on n'est pas heureux, surtout comme croyant. On devrait être heureux. Mais la réalité, c'est que c'est une quête. C'est une recherche profonde, subtile, intérieure. Blaise Pascal, le penseur français, a repris un peu la même pensée à une autre époque. Plutôt, même historiquement dans l'histoire, tous les hommes recherchent d'être heureux. Cela est sans exception. Quelques différents moyens qu'ils y emploient, ils tendent tous à ce but. Donc, les gens recherchent tous le bonheur. D'ailleurs, cette quête de bonheur, c'est une fin en soi, c'est une finalité. Laissez-moi vous expliquer ce que j'entends par fin en soi. Vous avez probablement l'occasion de rencontrer quelqu'un puis qui de façon très particulière ce jour-là, et a le visage particulièrement illuminé, sourire incroyable. Et souvent, on leur pose la question, « Coudon, qu'est-ce qui t'arrive d'être sourire comme ça? Est-ce que tu as gagné la loterie? » Okay? Donc, on associe, on va voir dans quelques instants aussi, l'argent au bonheur. Et regardez-moi bien, on va dire parfois, vous connaissez cette phrase qui dit, « À quoi sert-il d'être riche si on n'est pas plus heureux? » Vous avez déjà entendu cette expression-là. Donc, voyez-vous que, dans le fond, à quoi ça sert d'avoir tout ça si tu n'es pas plus heureux? À quoi ça sert d'avoir une grosse case, une maison, avoir une belle voiture si tu n'es pas plus heureux? Mais jamais on va dire à quelqu'un, à quoi sert-il d'être heureux si on n'est pas plus riche? OK? Le bonheur semble une finalité. Et lorsque tu as le bonheur, lorsque tu es heureux, le reste devient secondaire. Et même d'ailleurs, vous savez, pour vos propres expériences de vie ou les expériences des gens qui vous entourent, que le bonheur, lorsqu'on l'a, le reste devient secondaire. OK? C'est comme si ça comble toute chose. Donc, c'est intéressant à comprendre. Maintenant, ça nous amène toujours à la question, la quête du bonheur, est-ce que c'est réaliste dans un monde où il y a énormément d'inégalités, énormément de souffrances, énormément de tragédies? On a juste à penser à ce qui est arrivé en Nouvelle-Zélande dans les dernières 24 heures, il y a plein de situations comme ça. Est-ce que c'est réaliste, ce bonheur? Est-ce que c'est seulement envisageable pour les gens qui, souvent, n'ont pas les moyens d'être heureux? Ce que j'entends par ne pas avoir les moyens, c'est que le bonheur dans la culture moderne, c'est quelque chose qui coûte quelque chose. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a des coachs de bonheur où à 100 $ américains de l'heure, ils vont vous amener sur le chemin du bonheur. OK? Sauf quand tu ne peux pas payer, tu fais quoi? Tu restes malheureux, encore une fois? Est-ce que le bonheur est une illusion? Est-ce que c'est une quête un peu insensée, une chimère qui fait en sorte qu'à quelque part, on va passer toute notre vie entière à courir après le bonheur sans jamais l'atteindre? Peut-on apprendre à être heureux? C'est une très bonne question parce que, en fait, je dirais, la réponse est oui, mais c'est quelque chose à réapprendre. Je vais vous expliquer pourquoi. Quels sont ceux qui ont des enfants? Si vous avez eu des enfants, OK. Est-ce que vous avez remarqué qu'un enfant tout petit est naturellement heureux? OK? On ne montre pas un enfant. Là, il faudrait que tu apprennes à sourire. OK? On ne donne pas un cours sur comment sourire. Lorsqu'il est comblé, repu, il a bien mangé, il a son biberon et tout ça, il est naturellement heureux. Est-ce qu'on montre un enfant à fredonner ou à chanter ou à, même à se trémousser, à danser un petit peu quand il entend de musique? La réponse, c'est non. C'est quelque chose qui est naturel. En fait, les enfants naissent heureux. Bien sûr que je suis conscient qu'ils pleurent, je suis conscient qu'ils ont des otites, qu'ils ont des coliques. Ayant eu quatre enfants, je sais ce qu'est la réalité. Mais naturellement, ils sont heureux. C'est avec le temps et les années qu'ils deviennent de plus en plus malheureux. C'est pour ça que les adultes sont souvent hyper malheureux, bien sûr, parce qu'il est arrivé des tragédies, il est arrivé des déceptions dans la famille, à l'école. Vous savez, on fait l'expérience de la vie dans les conditions réelles de la vie qui fait qu'à quelque part, parfois, on souffre et on subit des choses. Et c'est vrai pour vous, c'est vrai pour moi, c'est pas facile. Donc, je crois que pour beaucoup de gens, il y a un réapprentissage à faire. Et vous savez, je fais le lien avec, bien sûr, le sermon sur la montagne, ou du moins les béatitudes, dans le sens que Jésus, c'est ce qu'il va adresser à la foule ce jour-là. On va voir pourquoi dans quelques instants. Donc, parfois, il faut réapprendre des choses. Ce que je veux vous convaincre ce matin, plus que toute autre chose, c'est que les gens heureux sont beaucoup plus agréables de compagnie que les gens qui sont malheureux. Vous allez me dire, c'est une évidence. Non, mais retenez bien ce que je veux dire. Je l'aborde de façon individuelle ce matin parce que c'est quelque chose que vous devez apprendre à cultiver dans votre propre vie indépendamment de l'autre, OK? Parce que je ne sais pas si vous vous êtes déjà essayé à rendre quelqu'un heureux, c'est très épuisant. On le voit avec les parents, avec les enfants, on voudrait que nos enfants soient heureux, puis on leur donne tout ce qu'il faut pour être heureux, puis ils ne sont pas plus heureux. Parce que dans cette quête-là, cette quête, elle est fondamentalement personnelle et individuelle, OK? Donc, peut-on apprendre à être heureux? Évidemment, on doit apprendre à être heureux. Comment composer avec les moments douloureux de la vie? Est-ce que le bonheur peut nous quitter à jamais suite à une tragédie? La réponse, c'est, je suis bien placé pour vous le dire, la réponse, c'est qu'il ne nous quitte pas à jamais, il peut nous quitter de façon temporaire le temps de souffrir ce qu'on a à souffrir ou de vivre ce qu'on a à vivre, de la douleur et le deuil associé à la perte, par exemple, de peu importe la perte. Rappelez-vous que Jésus a dit: heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. C'est fascinant comme thème, parce que est-ce que ça se pourrait que le bonheur soit aussi dans les larmes, ou qu'il y ait une portion du bonheur qui est associée à la souffrance? Ceux qui n'ont pas beaucoup souffert ont un bonheur très compliqué. Ceux qui ont souffert ont un bonheur allégé. Quand tu as souffert et tu as passé au travers de la vallée là, de douleur et de souffrance, ton bonheur devient beaucoup plus simple. Okay? On aime les choses de la vie, on apprécie la nature, on apprécie le lever ou le coucher du soleil, plein de choses, comme si à quelque part la souffrance ou l'épreuve a un peu épuré la complexité de notre vie. Ouais? Est-ce qu'il y a un bonheur après le drame? Est-ce que le bonheur, encore une fois, peut nous quitter à jamais? Ou si à quelque part, bien évidemment, on peut le retrouver? La réponse est bien sûr qu'on peut le retrouver. Est-il gratuit ce bonheur que nous cherchons tous? La réponse, c'est que ça va dépendre de ce qu'on cherche ou ce qu'on représente au niveau du bonheur, littéralement. Et ça m'amène à la prochaine question. Où les gens cherchent-ils le bonheur dans la vie de tous les jours? Et là, vous et moi, ce qu'on doit faire comme exercice à l'intérieur de nous, c'est avoir une prise de conscience de la réalité. Je suis dans une église ici ce matin, je suis conscient que, en tout cas, la plupart d'entre vous, vous êtes chrétiens, vous avez une foi active. Mais on peut être chrétien, on peut être fidèle à l'église, on peut avoir une expérience originelle avec Jésus, de conversion, de cœur et tout cela, et continuer à chercher le bonheur un peu partout ailleurs. Okay? Donc, sans culpabilité, sans culpabilisation, faites simplement regarder un petit peu où je le cherche, moi, à l'intérieur de moi, où je cherche ce bonheur-là. Est-ce que c'est dans l'argent? J'en ai fait allusion il y a quelques instants. La plupart des gens associent immanquablement l'argent et le bonheur. Vous savez que l'argent ne rend pas heureux. Vous devez accepter cette réalité-là. Les gens riches sont malheureux. Okay? Ils ont beau avoir deux Rolls-Royce, une Bentley, toutes les maisons imaginables. Il faut composer les gens plus riches pour comprendre que quelque part, ils ne sont pas heureux. L'argent, c'est tout ce que ça accorde. Ça accorde la liberté. C'est tout. Mais avec cette liberté-là, et vous savez, si vous suivez un petit peu la vie des gens riches et célèbres ou la vie des vedettes d'Hollywood, ils en ont de l'argent, mais ils utilisent cet argent-là pour être encore plus malheureux parce qu'ils sont dans les drogues, ils sont dans toutes les histoires incroyables. Mais les gens ont encore cette représentation que l'argent fait le bonheur. Évidemment, si on veut un petit peu ironiser sur ça, quelqu'un a dit un jour, « J'ai été malheureux riche, j'ai été malheureux pauvre, tant qu'à être malheureux, je m'autant être malheureux riche. » Je vous l'accorde, moi aussi, tant qu'être malheureux, je m'autant être malheureux avec de l'argent, qu'être malheureux sans le sou. Mais ça vous donne un petit peu d'où origine cette quête-là. Les gens recherchent le bonheur aussi dans le statut social, le positionnement. CEO at the top. On va monter l'échelle de la société, on va devenir, peu importe le domaine dans lequel on est, ça peut être dans le domaine des affaires, ça peut être dans le domaine artistique, ça peut être dans le domaine religieux, spirituel, chrétien, ça peut être dans... On cherche un positionnement qui fait que quelque part, lorsque je serai arrivé au sommet, bien, les gens vont m'aimer, puis je vais être heureux, puis je vais être comblé. Les gens cherchent le bonheur, bien sûr, dans la santé. Le bien-être. Évidemment, et je ne remets pas en question cela, c'est effectivement quand on est en santé, mais même parfois, le problème qu'il y a, c'est qu'on est en bonne santé et qu'on n'est pas plus heureux. OK? Il faut se retrouver un peu malade. Il faut. Quand ma femme est tombée malade, j'ai été 159 jours à l'hôpital consécutif. L'hôpital Notre-Dame à Montréal, à l'unité de soins palliatifs pendant 3 semaines, mais le reste, c'était dans un autre département. Et si vous êtes comme moi, quand j'ai rien à faire, moi, je ne vais pas me promener à l'hôpital. Hein. J'y vais par obligation et pas par choix, et que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan de quelqu'un qu'on doit visiter. Mais de vivre là, c'est de s'apercevoir qu'il y a un autre monde qui existe, de gens qui sont mal en point, de gens qui sont... c'était une expérience à la fois douloureuse pour moi, mais c'était un éveil à ma conscience aussi que c'est incroyable le nombre de personnes qui, souvent, leur vie est mal en point, leur vie physique, leur santé est mal en point. Et quand on ressort de tout cela, on apprécie le fait d'être en bonne santé. Malheureusement, on s'habitue à être en bonne santé. C'est quand on est malade qu'on s'aperçoit que c'est agréable, mais on n'en prenait pas conscience. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour moi aussi. Le succès, encore une fois, c'est très, très actuel, c'est très occidental, cette poursuite du succès, de la réussite. Puis derrière ça, ça cache encore une fois une quête du bonheur. La sexualité, le sexe, les gens pensent que, surtout dans l'ère moderne, avec la sur-sexualisation de la société, on pense que le bonheur est réellement là. On nous propose un bonheur qui est là, on nous rabat les oreilles avec cette réalité-là, mais ça fait partie de la vie de la nature humaine. Mais, encore une fois, le problème dans cette quête-là, c'est qu'il y a plein de gens qui sombrent, à la fois dans la pornographie, à la fois dans les conquêtes successives qui ne cessent jamais. C'est le grand défi de la jeune génération. Ils savent avoir des rapports sexuels, mais ils ne savent pas aimer, ils ne savent pas s'attacher, ils ne savent pas construire quelque chose de durable qu'on appelle le mariage. Ils le font très, très peu. Et sixième et dernier point, le self-esteem. Parce que ça me prenait un S, pour ça je l'ai mis en anglais. L'estime de soi, c'est-à-dire la construction de ce que je suis à l'extérieur, ce sont des thèmes très, très actuels. Encore une fois, l'estime de soi, de bien se sentir avec soi-même, la relation avec soi. Mais, encore une fois, je voudrais vous dire que c'est important, l'estime de soi. Je suis conscient de cela. Je dis souvent à la blague, je pose souvent la question aux gens, puis je vais vous la poser. Est-ce que vous avez déjà réalisé que vous êtes la personne avec qui vous allez passer le plus de temps dans la vie? La réponse est évidemment, bien, ça serait bon qu'on s'entende bien avec soi-même. Mais il y a plein de gens dont le problème majeur, c'est eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas bien avec eux-mêmes, ils ne sont pas bien dans leur peau, ils ne sont pas bien intérieurement, ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes, une mauvaise estime d'eux-mêmes. Mais encore une fois, c'est évident qu'il faut apprendre à guérir, se rétablir, reconstruire parfois ce qui a été brisé à l'intérieur de soi. Mais on n'est pas en soi-même dans cet état d'auto-, suffisance, d'autosatisfaction en disant « je suis heureux avec moi-même, je suis tellement bien avec moi-même ». Okay? On réalise qu'il y a une limite à tout cela. Et le bonheur est aussi dans les relations avec les autres, avec les enfants, avec les amis, avec, bien sûr, notre mari ou notre épouse. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Vous êtes sage, vous êtes silencieux et sage. Okay? C'est beau cette question du bonheur. On va tenter de le définir un petit peu. On va tenter de comprendre qu'est-ce que le bonheur au juste. Le bonheur est un état de bien-être d'une relative permanence. Parce qu'il faut faire la distinction entre la joie et le bonheur. La joie, c'est des moments de joie. D'ailleurs, parfois, bien sûr, tout ça va s'entremêler. Je ne veux pas être trop cartésien, trop radical ou rationnel là-dessus. Mais le bonheur, il y a un élément de permanence à quelque part, d'une relative permanence, dans le sens que la vie est tellement complexe, il y a tellement une dynamique de vie qui fait qu'à quelque part, on n'est pas dans un état où on n'est jamais plus perturbé par quoi que ce soit. On ne vit pas dans une bulle, on ne vit pas dans un aquarium, on vit dans les conditions réelles de la vie de la société. Caractérisé par une condition émotionnelle agréable. Et pourquoi j'insiste sur le mot condition émotionnelle? Parce que le bonheur, plus que tout, c'est de l'ordre du ressenti. C'est ce qu'on éprouve à l'intérieur de soi. Okay? Donc, on peut avoir tout ce qu'il faut pour être heureux sans que ça vienne nous envahir dans la vie intérieure. Et vous allez voir pourquoi aussi, je vais réaborder ça dans quelques instants. Donc, c'est caractérisé par une condition émotionnelle agréable allant d'un contentement tout simple jusqu'à la joie la plus positive. Et le tout avec un désir naturel de continuité. Donc, quand on vit le bonheur, on voudrait que ça soit permanent. Et quand on le perd, ou quand il arrive des circonstances qu'on est malheureux, mais on repart dans notre quête, du moins, ce n'est pas une grosse quête existentielle dans ces moments-là, mais de retrouver cet état de bien-être. Okay. D'ailleurs, laissez-moi vous encourager à faire quelque chose. Moi, j'appelle ça la jauge de bonheur, en parlant québécois, le « gauge ». Parfois, moi, quand ça fait, je m'aperçois après quelques jours que je suis un peu maussade ou un peu... qu'est-ce que j'ai, là? Je suis un peu ronchonchon, là. Schrumpf, bougon, là, OK? Bien, je prends la jauge, là, puis je vais fouiller dans l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui se passe, OK? Pour m'apercevoir qu'il y a plein de choses qui arrivent parfois. Ça peut être la fatigue physique, ça peut être le surmenage, ça peut être... ce que j'appelle cet indice ou cette indication du bonheur m'amène à devoir réajuster des choses dans ma vie, OK? Parce qu'on est, encore une fois, la vie, vous savez, c'est pas un long fleuve tranquille. On est souvent en effervescence, encore davantage dans la vie moderne, qui fait qu'à quelque part, on a plein de préoccupations, on a plein de... Est-ce que c'est moi qui fais ça? Je ne suis pas supposé, j'ai tout désactivé. Donc, quand je prends ce temps d'aller là, j'essaie de voir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui se passe? OK? Et parfois, ça peut être un petit conflit qui n'a pas été résolu, ça peut être quelque chose qui pèse sur ma conscience. Mais encore rien d'énorme, mais juste quelque chose qui nous pousse à nous réajuster pour être bien. OK? Parce que le bonheur, plus que tout, c'est bon pour la santé. OK? C'est bon pour la santé physique, mais c'est aussi, évidemment, pour la santé mentale. Donc, le bonheur est un état de bien-être, d'une relative permanence caractérisée par une condition émotionnelle agréable allant d'un contentement tout simple, bien simple, wow, à la joie la plus positive avec un désir de continuité. Qu'est-ce que le bonheur? Le petit Larousse nous dit simplement que le bonheur est un état de complète satisfaction et de plénitude. Larousse rajoute cet état de plénitude, le fait d'être rempli, le fait d'être comblé. Une définition commune dit « le bonheur est un état intérieur de sérénité » et de bien-être, et ce, malgré les circonstances. Encore une fois, pour que le bonheur soit un véritable bonheur, il ne faut pas qu'il soit trop perméable aux circonstances, à ce qui survient. Sinon, on le perd, on le gagne, on le perd, on le gagne, on passe notre vie, nos journées même à reperdre tout ça. Ce que je veux vous retenir dans tout cela, c'est la dimension de l'état intérieur. OK? Le bonheur n'est pas dans les conditions extérieures, mais dans notre condition intérieure. OK? Ça paraît simple, encore une fois, mais prenez conscience ce matin que la plupart des gens recherchent quelque chose d'extérieur pour combler ce qui est à l'intérieur. Mais il n'y a rien de matériel qui peut combler ce qui est à la base quelque chose de spirituel. Parce que le bonheur, ce n'est pas tangible, ce n'est pas un objet. Le bonheur, ce sont... Maintenant, vous vous dites ce matin, je serais heureux si j'avais une nouvelle voiture. Là, j'ai une espèce de vieille voiture. Bon, je serais heureux. Ça, c'est du matériel. Maintenant, c'est nécessaire. Dans la vie, on a besoin. Mais ce qui est matériel, là, ne peut pas venir combler quelque chose à l'intérieur. OK? Moi, quand j'ai changé de voiture, là, j'ai été super heureux le premier mois. Après ça, c'est le premier paiement qui est arrivé. Je me suis aperçu que le premier paiement a sombré un petit peu. C'est beau. C'est cher. Bon, OK. Vous comprenez un peu, on fait un petit peu d'humour. Donc, il n'y a rien de matériel. On doit être capable de saisir que le bonheur, ce n'est pas quelque chose de, encore une fois, de mécanique, c'est quelque chose d'intérieur. Donc, rien de ce qui est extérieur ne peut venir combler ce qui est à l'intérieur. Rien de ce qui est matériel ne peut venir combler ce qui est à la base et spirituel. Le bonheur non plus n'est pas dans l'avoir ni dans le faire, mais dans l'être. C'est un état. Dans la définition, dans les trois définitions que nous avons lues tout à l'heure, il y a le mot « état » qui revenait. Donc, c'est un état. C'est un état intérieur. Donc, qui dit état dit être dans ce que je suis profondément. Et les gens heureux, quand vous les rencontrez, c'est même s'ils ont une vie très fructueuse, à quelque part, c'est dans ce qu'ils sont réellement, dans ce qu'ils sont profondément. OK? Et vous savez ce que je crois? Peut-être que je vais vous choquer un tout petit peu ce matin. Vous savez, je ne crois pas que les gens cherchent Dieu, moi. OK? Pensez à votre propre vie. Est-ce qu'un jour vous êtes levé, vous dites, je ne sais pas si Dieu existe, je vais partir à sa recherche. OK? C'est vous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le bonheur. Et bien évidemment, c'était ma propre quête personnelle. Dans mon adolescence, j'étais profondément malheureux, une adolescence hyper chaotique. Puis je cherchais à être heureux. Je croyais que c'était avec les filles, je croyais que c'était avec les parties, je croyais que c'était avec tout ce que je pouvais faire comme frasque. Je m'apercevais que ça ne me rendait pas heureux. Évidemment, lorsque j'ai rencontré Jésus, j'ai compris que ce que je cherchais, que j'appelais le bonheur, était en fait lui. OK? Et en fait, on pourrait dire, comme je pense que le psaume dit, voici ce que mon cœur cherchait. C'est ça que mon cœur cherchait, mais je le cherchais ailleurs. Et j'ai compris que fondamentalement, c'était quelque chose de spirituel. Et quand j'ai rencontré Dieu, bien sûr, ma vie a été comblée. Puis après coup, c'était simplement des ajustements de vie, mais lui devait devenir le centre. Ça m'amène un peu au thème d'aujourd'hui aussi. Le bonheur n'est pas dans l'autre personne, mais dans notre personne. J'ai fait allusion il y a quelques instants à la réalité suivante. On essaie parfois de rendre les gens heureux pour se réaliser qu'on, même, peu importe ce qu'on va leur donner, peu importe ce qu'on va occasionner ou créer pour eux, ça ne réussit pas à les satisfaire parce qu'à la base, il faut que ça soit travaillé à l'intérieur de soi. Quand on regarde les personnes seules ou les personnes célibataires, surtout, vous savez qu'il y a un phénomène moderne assez fascinant, un phénomène sociologique qu'on appelle les adultes célibataires. Oui. Il y a les adultes célibataires, ce sont des gens, il y a trois catégories. Il y a soit quelqu'un qui a déjà été marié et qui se retrouve donc ou en séparation ou en divorce. Donc, on parle d'adulte, on ne parle pas d'adulte de 19-20 ans, on parle d'adulte plus âgé. Ou c'est quelqu'un qui a perdu son épouse ou son mari, un veuf ou une veuve, ou des célibataires endurcis, comme on dit communément, qui fait qu'à quelque part, ils n'ont jamais trouvé l'âme sœur. Okay? Donc, on se retrouve avec un segment. Aux États-Unis, c'est à peu près l'équivalent de 41 millions de personnes. Okay? Au Québec, on parle de plus de 100 000, entre 100 et 200 000 personnes. En France, c'est quelques millions aussi. Donc, c'est devenu un groupe de population, comme un groupe ethnique, si vous voulez. On pourrait dire combien il y a de Latinos au Québec, mais combien il y a d'adultes célibataires au Québec. C'est pour ça que vous voyez parfois, maintenant, beaucoup d'activités qui sont rattachées pour les célibataires, célibataires en fête, où ils se créent. C'est fascinant. On n'a même pas fini de comprendre tout ça, parce que c'est des mœurs qu'il faut étudier, et avec des particularités qui font en sorte que même, surtout ceux qui ont déjà connu une relation et qui l'ont perdue pour différentes raisons, ça crée tout un défi au niveau de se rattacher à nouveau. OK? Et c'est donc ça devient une espèce de marché. Excusez-moi l'expression, un market, un marché où tu as le marché du célibat, où les gens sont à la recherche de quelque chose. Puis vous voyez avec toutes les applications maintenant qui existent aussi, que ça devient fascinant comme étude. Et les gens, fondamentalement, sont convaincus que lorsqu'ils vont trouver l'autre personne, OK, ils vont être heureux. Si j'avais une femme dans ma vie, je serais heureux. Maintenant, comprenez bien. Je sais, je vais citer le verset dans la deuxième session, « Qui trouve une femme trouve le bonheur. » Mais il faut remettre ça dans un contexte. La réalité, c'est que si je suis, ou un homme, hein, je ne suis pas sexiste dans le contexte du texte. En fait, le texte, là, c'est plus celui qui trouve la femme. Okay? C'est pas juste une femme dans le sens d'une femme, une femelle, une femme. Okay? C'est plus que ça, c'est celui qui trouve la bonne femme, littéralement. Où je m'en allais avec ça? OK, voici ce à quoi je vais en venir. Une personne qui est fondamentalement et foncièrement malheureuse, OK, va croire que que le rétablissement de son malheur ou la correction de sa vie ou le rétablissement de sa vie intérieure ou va provenir d'une source extérieure qui s'appelle l'autre. Okay? Le problème, c'est qu'une personne seule, par exemple, qui est malheureuse ou malheureuse, okay, va probablement avoir plus de chances de trouver une autre personne malheureuse que de trouver une personne heureuse. Okay? Et encore une fois, ils vont s'illusionner en se disant, écoute, on est tous les deux de deux âmes esselées, malheureux, malheureuses, OK? Mais on va construire un bonheur ensemble. Vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont créer un mariage malheureux. C'est ça qui est triste, OK? Pourquoi? Parce que le bonheur est une quête trop importante pour le laisser entre les mains de quelqu'un d'autre. Il faut que je travaille mon bonheur moi-même. Et si, en étant seul, et vous savez, quand je dis seul, je ne parle pas simplement pour les personnes célibataires, mais seul avec moi-même, je dois apprendre à découvrir ce bonheur-là. Il faut que je rétablisse ma vie. Il faut que je sois heureux à quelque part. Sinon, je vais rendre les autres malheureux autour de moi. Puis à l'inverse, les gens qui sont heureux autour de moi ne réussiront pas à me rendre heureux, moi. Okay? Donc, ce matin, j'ai voulu commencer avec cette idée. C'est avant tout une quête qui est personnelle. Il faut que moi, je règle les choses dans ma vie de façon à trouver un bonheur. Évidemment, c'est relatif. Puis évidemment, encore une fois, je sais qu'on est des êtres de relation et qu'on a besoin de quelqu'un dans notre vie. Mais ce besoin-là n'est pas un besoin de dépendance dans le sens que sans elle ou sans lui, je ne peux rien faire. C'est un besoin, c'est une valeur ajoutée, comme je mentionnais en tout début ce matin, dans lequel je rencontre quelqu'un avec elle. Moi, vous ouvrez mon cœur sur quelque chose. Quand j'étais seul, encore une fois, je n'étais pas malheureux. Je réalise avec le temps qu'il me manquait quelque chose, évidemment, j'étais seul. Mais si vous parlez à mes enfants, ils vont vous dire, « Il n'était pas malheureux, il n'était pas déprimé, assis dans le divan de sa vie en disant, là, si je peux avoir une femme dans ma vie, ce n'est pas ma nature, ce n'était pas moi. » Par contre, je le sais par ma profession et par mon expérience que on ne sait jamais quand on peut être frappé d'un coup de foudre. Okay? J'ai trop vu d'histoires dans ma vie. J'ai trop vu de gens qui ont été foudroyés par l'amour. Et vous connaissez l'adage, hein? L'amour est aveugle. Et la suite? Mais le mariage dans la vie. Okay? Donc, moi, j'ai vu des gens mariés et non mariés. Là. J'ai vu des gens mariés et non mariés emboutés par des personnes. Hypnotisé, là. Adieu, vos vaches cochons, le gars plaque toute sa famille, sa sécurité, OK, il a rencontré de l'amour, ça n'arrivera jamais, OK, puis on regarde ça de loin, on dit, fou, pourquoi? Donc, j'étais conscient de cette réalité-là. Donc, ce que j'avais fait avec moi-même, j'ai pris une entente. Dans mon téléphone, j'avais mis 10 critères, OK? Si je rencontre, puis des fois, là, je suis fou, ça peut arriver. Ça peut arriver, certains d'entre vous, ça vous est arrivé. D'ailleurs, ça m'est arrivé. Effectivement, ça m'est arrivé. Mais j'ai mis 10 critères sur lesquels je ne me compromettrai pas. OK? Et là où je sais que vous voulez savoir c'est quoi les 10, mais je ne les ai plus dans mon téléphone, c'est juste un écran noir. Là, OK? Je l'ai sorti pour le besoin de l'illustration. Mais il y avait entre autres le fait de. Il fallait que la personne soit chrétienne. Moi, je suis dans l'œuvre de Dieu, je suis un pasteur. Il n'est pas question que j'aille de l'autre côté de la clôture chercher. C'est ma culture, c'est ma vie, c'est mon appel. Je ne peux pas me compromettre là-dessus. Okay? Donc, si la personne n'est pas chrétienne, si je suis foudroyé, ben, je m'attache avec des barbelés autour d'un piquet puis je ne bouge pas dedans jusqu'à temps que ça passe. Okay? Parce qu'il ne sera pas question que j'aille de l'autre côté. Vous comprenez un peu ce à quoi je fais allusion? Je ne dis pas par jugement de l'autre personne, ça peut être des excellentes personnes, mais la vie spirituelle est trop importante dans ma vie pour que je remette ça en question. Donc, il n'est pas question que l'autre personne ne soit pas chrétienne. Il n'est pas question que l'autre personne n'aime pas Dieu. Parce qu'encore une fois, nos églises, puis certains d'entre vous, vous avez peut-être vécu un divorce orageux, vous étiez marié avec un chrétien, qu'une chrétienne, ça n'a pas marché, puis là, vous dites, là, les chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres. Okay? Et beaucoup qui résonnent comme ça, puis vont aller se retrouver avec quelqu'un d'autre, qui peut être une très, très, très bonne personne, mais il va toujours avoir l'espèce de bug qui fait qu'on n'a pas cette harmonie spirituelle. Même s'il y a du respect dans tout cela, il va manquer quelque chose d'être fidèle à Dieu et de marcher avec Dieu et tout ça. Je ne suis pas rigide dans ma pensée. Là. Vous comprenez à quoi je fais allusion? Et donc, je voulais une femme qui aime Jésus, qui n'est pas juste, en anglais, on dit un church-goer, quelqu'un qui assiste à l'église. Okay? Il y a plein de gens qui vont à l'église le dimanche, Puis le lundi matin, ça paraît pas. OK, ils sont bénis, 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 mais ils sont pas transformés, ils sont pas chrétiens. C'est, moi, je crois que c'est le lundi matin qu'on reconnaît un vrai chrétien, pas le dimanche matin. Dimanche matin, tout le monde est super gentil, super spirituel, on aime le Seigneur, on le loue, mais le lundi matin, on tombe dans la condition réelle de la vie, au travail, dans la famille et tout ça. Donc, j'avais toute une série de critères comme ça qui fait qu'à quelque part, je voulais quelqu'un qui aime Dieu et je voulais quelqu'un qui ait une vie chrétienne autonome, c'est-à-dire de quelqu'un qui vit sa vie chrétienne. Je voulais pas marier une bonne sœur. C'est pas mon genre. OK, je suis pas religieux, moi, de nature. J'aime Jésus de tout mon cœur, mais je suis pas religieux. Fait qu'on va quitter la petite maison dans la prairie avec les... OK, bon. Je souris parce que j'ai une bonne amie à moi qui est d'ailleurs qui est remariée maintenant, qui était en charge de tout le ministère des personnes seules pour la Suisse. Et j'étais 2 années consécutives de conférencier pour la rencontre annuelle des personnes seules. Puis à la fin de la première année, je lui ai dit, il faut que tu donnes un atelier de relooking. OK, ce boulot, pour les gars autant que pour les filles, là... Ils vont rester célibataires. C'est sûr qu'ils vont rester célibataires. Juste la seule façon qu'ils s'habillent, et pour ça, je fais allusion à la petite maison dans la prairie. C'est beau, là, c'est beau, Lorraine Gals, mais c'est passé date, hein, de nos jours. À moins que vous soyez à Mich, que vous allez dans la Pennsylvanie aux États-Unis ou dans l'Ouest canadien. Donc, une série de critères comme ça de non-compromission. Et je voulais aussi, surtout, une femme heureuse. Je veux une femme qui sourit. Ce qui a gagné mon cœur avec ma femme, c'est son sourire. Si, boulot, elle m'a complètement... C'est une arme fatale. Elle m'a tué avec son sourire, OK? Ce qui fait que c'est quelqu'un d'heureux. Puis, quelque part, c'est rassurant. Sinon, tu passes ta vie à encourager quelqu'un, à supporter quelqu'un. Je sais bien qu'il faut le faire dans la vie, mais il faut que ça soit mutuel, tout cela. C'est pas toujours le même qui porte l'autre et tout cela. Et pourquoi? Parce que fallait que cette personne, en tout cas dans ma compréhension de mes attentes que j'avais et dans les désirs que j'avais, que ce soit quelqu'un qui soit fondamentalement heureux et que je ne sois pas là en train de jouer mon rôle de sauveur ou de sauveteur pour le reste de ma vie. Parce que c'est lourd tout ça. Certains d'entre vous savez à quoi je fais allusion. C'est lourd de porter quelqu'un dans ta vie. Donc, le bonheur, c'est une quête qui est personnelle et qui ne réside pas dans l'autre. Donc, ce matin, faites l'exercice dans votre propre pensée, dans ce sens-là, c'est-à-dire, faut que ce soit quelque chose sur lequel je travaille. Peut-être que je suis un fardeau pour mon mari, pour ma femme. Peut-être que j'ai pas, il y a des choses que je ne règle pas à l'intérieur de moi. Et je me souviens d'en avoir parlé ici dans le passé. Écoutez bien ma pensée. Le problème dans la vie n'est pas d'avoir des problèmes. OK? Tout le monde a un problème, est un problème ou vit avec un problème. OK? Ça, c'est l'humanité entière. OK? Le problème n'est pas là. OK? Si vous me dites, passionnez-vous, est-ce que vous avez une divine immunité dans votre vie? Il n'y a jamais rien qui se passe. Non, c'est pas vrai. Il y a toujours quelque chose. Il y a quoi qui brise à quelque part. Il y a des déceptions. On vit tout ça. C'est ce que j'appelle les conditions réelles de la vie. OK? Mais la réalité, c'est que face aux problèmes auxquels on a fait face, on doit apprendre à les régler, à les résoudre. OK? Le problème, c'est pas qu'il y ait des problèmes. Le problème, c'est qu'on n'applique pas de solution. Donc, il y a des gens qui restent dans cet état-là pendant leur vie entière. Okay? La dépression, ça se règle, ça se guérit, ça se rétablit. Je sais que c'est pas toujours facile, puis parfois, c'est un long chemin de rétablissement, mais ça se guérit. Pourquoi je fais allusion à la dépression? Parce que les deux médicaments les plus prescrits en Occident, Canada, Amérique, Europe et tout ça, les deux médicaments les plus prescrits, c'est les antidépresseurs et les anxiolytiques. Donc, les gens sont déprimés, les gens sont anxieux. Ça se règle, cela. On va devoir refaire ou réaménager des vastes pans de notre vie, hein, mais ça se règle, ces choses-là. Donc, le problème n'est pas dans le problème. Le problème est dans l'incapacité ou la difficulté ou le refus d'appliquer des solutions pour résoudre ces choses-là. Mais quand on les applique, puis quand on commence à régler les choses, c'est pour ça qu'on est heureux, on devient serein, parce qu'on s'est préoccupé de ça, on s'est préoccupé de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et vous savez qu'il y a plein de parents qui sont malheureux, qui rendent les enfants malheureux. Ouais? Les enfants portent les parents, des parents malheureux, des mariages malheureux, tout ça. Et c'est un grand, grand, grand service. Vous allez voir, je vais même en parler demain matin, parce que je crois qu'il faut créer un climat dans la maison serein. Parce que le bonheur, encore une fois, ça, je l'ai mentionné un peu plus tôt, on est relativement heureux, mais c'est quelque chose qui se perd, et ça commence à se perdre déjà dans la famille à cause des conflits qui peuvent prendre place dans la famille. Donc, c'est un avantage, et bien que c'est aussi l'intérêt de Dieu et le désir de Dieu pour nos propres vies. J'ai parlé des béatitudes, on va aller vers les béatitudes. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, les enseigna. Il dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés ou ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre, ou les doux. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, dis-je, car le royaume des cieux est à eux. Laissez-moi juste faire un pas en arrière. Regardez bien la première portion du texte. Là. Voyant la foule jusqu'à la première béatitude, heureux les pauvres en esprit. Juste les trois premières lignes. Okay? Regardez bien. Regardez-moi. Le texte dit « voyant la foule ». Okay. Donc, si vous reculez dans le chapitre précédent, chapitre 4, vous apercevez que Jésus a commencé son ministère public. Il se promène de ville en ville, de village en village. Et là, la foule commence à s'accumuler autour de lui. Okay? Sa réputation commence à se répandre. Et la foule grossit. Et là, Jésus, le texte dit « voyant la foule ». Alors, la première fois que j'ai lu ce texte-là, « voyant la foule », je me suis dit « mais qu'est-ce que Jésus a vu dans la foule ?» Parce qu'une foule, là, on a une petite foule ce matin ici, là. Pour pouvoir voir ce qui se passe comme besoin, il faudrait que je m'assoie avec chacun de vous individuellement, je vois les besoins. Là, okay? Mais Jésus a vu. Pourquoi je sais que Jésus a vu quelque chose dans la foule? À cause du contenu des versets suivants. Okay? Mais en fait, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu leur mal-être, leur mal de vivre, il a vu leur malheur, il a vu quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il adresse. Il voit la foule, puis il s'arrête, puis il va adresser le sujet. Donc, on pourrait dire que dans une foule, il y a une foule de besoins, mais littéralement, c'est mal comprendre la foule. Okay? Et ceux qui comprennent la foule, ce sont ceux qui ont accès à la foule. Suivez-moi bien. Les artistes comprennent c'est quoi une foule. Les policiers comprennent c'est quoi une foule, surtout dans les émeutes ou surtout dans les manifestations. Okay? Ça se lit une foule. Pourquoi? Parce qu'une foule, à quelque part, ça devient comme une seule et unique personne. OK? Et encore une fois, quand on voyage beaucoup, on s'aperçoit que les foules varient d'un endroit à l'autre. Ils ne varient pas en termes de nombre, en termes d'identité. Okay? Même, prenez un artiste qui fait 5 soirs de suite avec le même spectacle, va s'apercevoir que la foule va changer d'un soir à l'autre. Okay? Il y a quelque chose de commun dans une foule. C'est comme si tout d'un coup, la foule devient une seule et unique personne, devient une grande personne multipliée par tous les individus qui sont là. OK? Maintenant, lorsque j'ai parlé du bonheur un peu plus tôt, j'ai dit que c'était une quête qui est universelle. Okay? Ce qu'on appelle une quête universelle, c'est quelque chose qui est partagé par tout le monde, de toute époque, de tout temps, de toute culture. Okay? Donc, si vous et moi, on part aujourd'hui, on s'en va en Nouvelle-Guinée, chez des gens qui n'ont peut-être pas beaucoup d'éducation, par exemple, ou sont très modestes, ils ont cette recherche de bonheur. Si vous allez dans les pays latinos, ils recherchent le bonheur. Si vous descendez au Moyen Âge, n'imaginez pas que les gens ne cherchaient pas le bonheur. Là, okay? C'est une quête qui est universelle de tout temps, de toute époque, de tout lieu. Alors, ce qui est fascinant dans ce texte-là, c'est que Jésus aborde la question du bonheur dans un contexte qui n'est pas propice. Parce que si vous lisez un petit peu de philosophie, les philosophes vont vous dire que le bonheur, ça date d'à peu près 300-400 ans. La préoccupation moderne qu'on a du bonheur. Okay? Le questionnement philosophique sur est-ce qu'il y a moyen d'être heureux dans la vie. Mais Jésus l'a abordé il y a 2000 ans. Et pourquoi il l'a abordé il y a 2000 ans? Parce que Jésus connaissait ce qui se passait dans le cœur humain. C'est une quête universelle. C'est-à-dire que ces gens-là qui étaient là ce jour-là étaient à la recherche de quelque chose. Et pourquoi je sais que c'est le bonheur? Bien, parce que c'est le thème que Jésus a développé. Jésus, si ça avait été le thème de la faim, bien, Jésus les aurait nourris comme il les a nourris à un autre moment donné. Mais le contenu du message de Jésus me démontre qu'il a adressé le besoin qui était là et le besoin qui était présent dans la foule. Le texte dit donc, voyant la foule, et le texte dit, Jésus monta sur la montagne. Pourquoi Jésus monte? Pourquoi ce détail? Pourquoi il monte sur la montagne? Maintenant, est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés en Israël? La montagne, c'est pas le Mont Everest, hein. C'est pas le Mont Royal non plus. C'est une petite colline qu'on appelle maintenant le Mont des Béatitudes. Mais en fait, il s'en fait. Pourquoi il est allé là? Parce que c'est une question de ce. C'est un peu c'est un peu comme monter sur l'estrade. C'est que là, il est capable de voir. Et c'est intéressant, encore une fois, parce que même vous et moi, en ce moment, là, je suis à votre niveau dans le sens que je ne peux pas voir tout le monde. Okay? Mais si je monte sur l'estrade, je ne monterai pas, là. Si je monte sur l'estrade, là, j'ai une perspective globale de la personne. Non seulement je vous vois, mais aussi vous me voyez. Parce qu'en ce moment, il y a des gens qui me voient à demi. Là. Si je bouge un peu, il y a probablement une dame qui ne me voit plus. En tout cas, moi, je ne la vois plus. Parce que ça change la donne au niveau de la visibilité. Essayez d'imaginer maintenant cet aspect visuel qui est important. Parce que, disons que je continuerai à parler pendant un bon moment, mais que je suis assis ici pour vous parler. Okay? Et là, Jésus est monté sur la montagne. Là, vous comprenez qu'il manque quelque chose. Là. Il dit, c'est beau, on entend ta voix, mais on a besoin de plus que de la voix. Donc, il y a un contact qui se fait dans ces moments-là. Il y a un lien qui se fait, puis le lien n'est pas simplement auditif, il est aussi visuel. Il fait qu'on voit, on se voit mutuellement. Vous me voyez?
Oui.
Merci. Donc, Jésus, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fût assis, le texte nous dit qu'il s'assoit. Alors, moi, je me suis interrogé, pourquoi il monte sur la montagne pour être vu, puis là, il s'assoit? OK? La réponse, c'est que nous, on a perdu de vue certaines notions-là. À l'époque, le maître enseignant, le rabbin, OK, lorsqu'il s'assoit, OK, immanquablement, la foule va s'asseoir parce que ça veut dire que c'est le moment de départ de l'enseignement. OK? D'ailleurs, ça n'existe plus maintenant, mais il existait à l'époque dans les universités ce qu'on appelle la chaise magistrale, la chaise du maître. Donc, tout le monde parle dans la classe, mais à partir du moment où le maître s'assoit dans la chaise, d'ailleurs, un jour, je suis allé en Suisse à la cathédrale, je pense que c'est Saint-Pierre ou Saint-Paul, je ne me souviens pas, et je me promène avec les autres, je regarde ça, puis je vois un cordon, OK, avec une chaise derrière le cordon, puis je regarde ce qui s'est marqué, une petite affiche, c'est marqué « La chaise de Jean Calvin ». Wow! Je suis passé en dessous du cordon, je suis allé m'asseoir dans la chaise de Jean Calvin. Ça n'a rien changé à ma vie, mais en tout cas, c'est une belle anecdote. Mais c'est la représentation de la chaise. Ça veut dire que Jean Calvin, c'était pourquoi la chaise de Jean Calvin? Moi, quand ma chaise chez nous, là, autour de la table, c'est une chaise. C'est que c'était la chaise magistrale. C'était la chaise où il s'assoyait. Donc, lorsque Jésus s'assoit, la foule, elle est là, puis elle est littéralement suspendue à ses lèvres. Parce qu'oubliez pas que la foule le suit. Puis là, on a vu la réponse, on veut avoir une réponse, on a entendu parler de toi. Et là, il y a une connexion qui se fait. Et cette connexion est importante parce que c'est ce qui va être porteur pour le thème que Jésus va aborder. Mais un autre petit détail. Le texte dit, puis ayant ouvert la bouche. Pourquoi Matthieu dit qu'il faut ouvrir la bouche? À moins que tu sois ventriloque, il faut que tu ouvres la bouche pour parler. Mais encore une fois, on est dans l'illustration un peu du contexte. C'est-à-dire que ce n'est pas tant qu'il ouvre la bouche qu'il va ouvrir son cœur. On va dire à quelqu'un, il était suspendu à ses lèvres. Bien, il était pas, ça ne tenait pas après, là, OK? Donc, c'est une figure de langage qui dit qu'à quelque part, il y a quelque chose sur le point de se... D'ailleurs, ce qu'on sait aussi, c'est un peu comme vous êtes à la maison, chez vous, vous attendez un coup de téléphone qui va dénouer un drame majeur dans votre vie, là, donc vous êtes suspendu à la ligne. Et la personne qui va dire, écoute, j'ai la réponse, là. Vous la voulez, la réponse? Là. C'est quoi, qu'est-ce qui est arrivé? Il est encore vivant? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la... Okay? La mauvaise nouvelle qui précède la bonne nouvelle crée quelque chose à l'intérieur de nous. Le mal d'être qui précède la réponse qui va dénouer mon problème demeure quelque chose qui va me positionner de façon très intense. Alors, et on a un thème pour ça, on appelle ça la communion, littéralement. Pas la communion dans le sens de la communion, là, dans le sens qu'il va y avoir comme une union qui va se faire. C'est pour ça que certains conférenciers ou certains enseignants ou certains ils sont capables d'aller chercher une foule parce que cette connexion est en train de se faire. Et cette connexion-là, c'est un lien, c'est une relation, c'est quasi spirituel, va faire en sorte que c'est quelque chose qui va passer. Et on va la bouche, il les enseigna. OK. Intéressant encore une fois, parce que on connaît Jésus selon différentes facettes dans ses 3 ans et demi de ministère. On connaît Jésus comme le sauveur, bien sûr, celui qui guérit, celui qui libère, celui qui délivre. Mais un des aspects les moins connus de Jésus, c'est le Jésus enseignant, le Jésus professeur. Puis si vous relisez les évangiles, vous allez découvrir que c'est vraiment la chose que Jésus a fait le plus, enseigner. Vous dites « wow ». Je n'avais jamais pensé à ça. Okay? Qu'est-ce que l'enseignement vient faire? Un enseignant, est-ce qu'il y a des enseignants dans la salle ici? Est-ce qu'il y a des professeurs, des enseignants? Bon, un enseignant, là, ça ne cherche pas à créer une dépendance, ça cherche à créer une autonomie. C'est-à-dire que ça va équiper les étudiants, peu importe la matière, pour que l'étudiant soit capable de tirer son épingle du jeu des mathématiques, de la physique, de la chimie, du français, de la grammaire. Okay? C'est un, l'apprentissage qui se fait là. L'enseignant qui pense à lui n'est pas un véritable enseignant. L'enseignant pense à son auditoire en disant, peu importe que ce soit la primaire, secondaire, universitaire, j'ai des gens en début d'année, il faut qu'à la fin de l'année, ils aient fait suffisamment d'acquisitions pour être autonomes, d'être plus autonomes dans un certain domaine. Okay? Donc, c'est intéressant. Et pourquoi c'est intéressant concernant le bonheur? Parce que le bonheur n'est pas quelque chose qui se donne. C'est pas quelque chose qu'on reçoit. On reçoit à la poste. Quand j'étais malheureux sur le chemin de la vie, quand tout d'un coup, j'ai reçu un colis, c'était le bonheur. Okay? Vous avez vu la chanson de Christophe Maé qui a cartonné. Pourtant, elle marche depuis longtemps en France. Moi, je le connaissais. Là, il est en train de parcourir le Québec. Et puis, en fait, c'est une illustration de tout cela. Mais, littéralement, le bonheur, il n'est pas dans un endroit non plus. Il n'est pas dans un lieu, il n'est pas dans un autre. Le bonheur, il est en soi, dans ma relation avec Dieu. Et donc, Jésus les enseigne à ce niveau-là. Là, je ne peux pas donner les détails, vous devez comprendre que ce n'est pas le but de la journée, le but, c'est le mariage, mais chacune des béatitudes, c'est aussi ce que j'appelle une facette du bonheur. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Être pauvre en esprit, ce n'est pas être nul, comme je le caricaturais un peu plus tôt. C'est en fait, pour y aller un petit peu de façon technique, là, c'est quelqu'un qui est pauvre en esprit est littéralement, c'est littéralement l'inverse du narcissisme. Une personne narcissique, elle est pleine d'elle-même. OK? Elle est tellement pleine d'elle-même qu'il n'y a plus de place pour personne. Le pauvre en esprit se vide de lui-même. Le mot pauvre qu'il y a là, c'est vraiment littéralement comme un mendiant. Mais regardez bien comment c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on donne à un pauvre dans le texte? Un royaume. Non, non, le royaume, c'est pour les forts, le royaume, c'est pour les riches. Le royaume, non. Réfléchissons sur le texte. À celui qui est pauvre en esprit, on donne un royaume. Le royaume des cieux est à eux. Alors, c'est fascinant parce que pour partir à la recherche de quelque chose, il faut reconnaître qu'il nous manque quelque chose. Quand tout le temps qu'on ne reconnaît pas qu'il nous manque quelque chose, on ne parle pas de recherche. On ne parle pas de recherche de quelque chose qu'on a déjà, d'une façon ou d'une autre. D'accord, je l'ai. Pourquoi je... Donc, dans l'aspiration à la vie, au bonheur et à la vie spirituelle, à la vie du royaume, il faut reconnaître notre état, notre besoin. Voilà pourquoi, de nos jours, peu partent dans cette recherche-là, parce qu'ils sont trop pleins d'eux-mêmes. Nos sociétés modernes, je m'excuse de vous le dire, c'est des usines à personnalité narcissique. Selfie, ciao. Regardez Facebook, les gens passent leur vie à se mettre en scène. OK? Vrai ou pas vrai? Là? Je déchire pas mes vêtements. Là. J'ai un compte Facebook. Mais je suis de plus en plus inconfortable avec ce détournement de la valeur des choses au détriment des relations pour notre propre bénéfice personnel sans que ça compte quoi que ce soit. Donc, Jésus adresse chacun de ces thèmes-là. Heureux, il adresse la question de la souffrance. Heureux les débonnaires, c'est heureux les doux. Encore une fois, un état intérieur. Ceux qui ont faim et soif de justice. C'est fascinant. Je me retiens pour prêcher sur chacun. Là. D'ailleurs, vous avez. En fait, chacune des béatitudes est un chapitre dans le livre. Et même à la fin, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice que le royaume des cieux est à eux. Okay? C'est vous ce qui est fascinant avec les béatitudes? C'est que c'est comme la gamme musicale. La gamme musicale commence par Do, puis elle finit par Do. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés, car le royaume des cieux est à eux. Ça commence avec le royaume des cieux, et ça finit par le royaume des cieux. Le premier royaume des cieux, c'est le royaume des cieux ici et maintenant. C'est-à-dire la manifestation du règne de Dieu dans ma vie sur terre, des deux pieds sur terre. Et le dernier, bien sûr, c'est « Un jour, je serai avec lui pour l'éternité ». Et c'est intéressant parce que, quand on étudie un petit peu les philosophes, on s'aperçoit qu'eux pensent que, vous savez, le ciel, le paradis à la fin de vos jours, ils disent que c'est une invention du christianisme pour amener les gens à vivre l'intolérable ou accepter l'intolérable. Autrement dit, on va leur faire croire une illusion que quelque part, il y a un paradis à quelque part, puis qu'ils vont être malheureux, mais dans le fond, ils vont rester malheureux. La réalité, c'est que c'est faux. C'est vrai qu'il y a cela, mais c'est vrai qu'ici, sur Terre, le bonheur est aussi pour ici et maintenant. Ça paraît simple, mais il y a plein de gens dans nos cercles évangéliques qui ne croient pas à cela. Okay? Ils ne croient pas au bonheur sur place, sur Terre, dans le ici et maintenant de leur vie. Un jour, je vais être bien dans la présence de Dieu. C'est vrai, mais au lieu d'opposer les concepts, le bonheur ici ou le bonheur plus tard, le christianisme marie des concepts. Je peux être heureux ici, je peux prendre en charge ma vie ici, je peux m'épanouir ici, mais je suis conscient qu'il y a une limite à cet épanouissement-là, mais un jour, je serai encore davantage. Mais ce n'est pas « endure ce que tu as enduré, porte ta croix, mon ami, parce que c'est la vie sur terre, et un jour, tu seras avec Dieu heureux. » Écoutez, j'aimerais vous signifier ce matin que le plan de Dieu pour votre vie, ce n'est pas simplement dans l'au-delà. C'est ça, là, bien, il aurait pu nous faire sauter une étape. Pas obligé de payer des impôts, moi ici, des taxes, puis avoir d'être malade, puis de perdre les aides que j'aime, on va y aller direct. Okay? Donc, on se convertit, puis on monte en haut. La réponse, c'est qu'il y a un plan pour nous ici-bas. Et ce plan n'est pas simplement dans ce que nous allons faire, ce que nous allons avoir, mais aussi, surtout, dans ce que nous allons être. Ma propre transformation personnelle. Êtes-vous toujours là? OK. On s'approche de la conclusion. Après ça, on pourra aller avec un échange, si vous voulez. Je vais vous reciter Blaise Pascal. Et regardez bien comment c'est hyper intéressant. Il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide, et qu'il essaie inutilement de remplir de tout ce qui l'environne. Parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable. Okay? C'est-à-dire que par Dieu lui-même. Lorsqu'on parle de cette dimension du bonheur, je crois aussi que cela fait partie de la vie chrétienne. Ça paraît simple. Si je vous ai mentionné au tout début dans la présentation que je me suis converti en 1975. Okay? À l'époque, là, il y a des notions qui n'existaient pas. Okay? D'ailleurs, à l'époque, la grande préoccupation des milieux religieux, toutes dénominations confondues, là, et monde évangélique, je parle, c'était pas l'état intérieur, c'était la doctrine et l'élément religieux. Moi, j'ai appris, dans la première année de ma vie chrétienne, j'ai appris à comment déconstruire l'Église catholique au complet. Okay, du pape à la Sainte Vierge, j'avais des heures et des heures de discussion en enseignant l'Église, la Bible et tout, voyez-vous. Maintenant, c'était l'époque, puis je ne suis pas fâchable à l'époque, mais on a passé à côté de quelque chose, parce que essentiellement la vie chrétienne, ce n'est pas une question de seulement de déconstruire quelque chose, c'est la question d'établir quelque chose à l'intérieur de soi. L'amour de Dieu. Par exemple, tout de suite, à mon esprit, il vient d'avoir ce verset de la parole dans ma pensée. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je n'ai pas connu le Père, moi, la première année de ma vie chrétienne. J'ai connu la doctrine, j'ai connu ci, fais pas ci, fais pas ça. Après un an de vie chrétienne, je savais tellement tout ce que je ne pouvais pas faire que je ne savais plus ce que je pouvais faire. C'est sérieux, là. C'est dramatique. Maintenant, je ne suis pas fâché. Ça s'est rétabli, tout cela. Mais c'était l'époque, c'était la culture de l'époque. Et on ne nous a pas appris aussi à l'époque à rétablir notre vie intérieure, à avoir. Bien sûr, il y avait tout le sauveur personnel, Jésus et tout ça, mais il n'y a pas ce réaménagement de la vie intérieure. Et ce que j'aime dans cette pensée de Pascal, c'est qu'il fait allusion à ce qui était à l'origine quelque chose. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on part à la recherche de quelque chose que l'on n'a pas. Mais fondamentalement, le bonheur, ce n'est pas quelque chose que l'on n'a pas, autant que quelque chose qu'on a perdu originellement. Il y eut autrefois, ça fait allusion à quelle époque ça? À la Genèse, chapitre 2, à la chute littéralement. Il y eut autrefois dans l'homme un véritable bonheur, une sérénité dans ma relation avec Dieu, dont il ne reste maintenant que la marque et la trace toute vide. Il manque quelque chose. Et cette quête-là, comprenez-moi bien, cette quête-là, ce n'est pas notre quête chrétienne. C'est une quête universelle. Peu importe, c'est dans la nature humaine, intrinsèquement à l'intérieur de nous, il y a c'est dans notre nature, cette soif, cette faim d'avoir quelque chose de plus. Et suivez-moi bien, je vais aller un peu plus loin que ça. Vous êtes rentré au boulot, là, au travail lundi, là. Dites-vous que les gens avec qui vous travaillez là, sont dans la même quête, mais ils ne le disent pas. Okay? Bon, certains, si vous avez un moment de connexion, à un moment donné, il peut arriver que les cœurs s'ouvrent et que vous ayez accès. La plupart du temps, on ne l'affiche pas, ça. Mais cette quête-là est universelle. Les gens la recherchent. Mais c'est vous quel est le problème? C'est dans l'objet de la recherche. C'est-à-dire, pas dans l'objet, mais dans l'objectif de la recherche. C'est qu'ils ne croient pas que c'est Dieu qui peut les rendre heureux. OK? Sortez cet après-midi, là, allez au centre d'achat le plus proche, là, OK? Puis amenez-vous un micro là, avec un interphone, puis enregistrez les gens, puis demandez-leur s'ils font une association entre le bonheur et la religion. Qu'est-ce qu'ils vont vous répondre? Pff, voyons, non. Pas question. C'est un faux concept. Ça veut dire qu'il y a, à la fois une désinformation, et il faut peut-être se poser la question si on n'est pas un peu coupable de cela, dans le sens que si nos propres vies ne reflètent pas ce que nous croyons, peut-être que ce n'est pas très attractif pour les gens aussi. Hein? Vous me suivez? Il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur, donc il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide qu'il essaie inutilement de remplir de tout ce qui l'environne. Un peu ce que je vous ai mentionné un peu plus tôt aujourd'hui, l'argent, le ci, le ça, le succès, OK? Mais ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire que par Dieu lui-même. Voici ce que mon cœur cherchait. C'est Dieu que je cherchais, mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Chercher le bonheur dans toutes sortes d'autres choses. Donc, le défi que nous avons, c'est parfois d'actualiser notre message. Et là, je le dis pour votre vie personnelle, vous êtes un mari. Est-ce que votre femme vous voit comme une personne heureuse? Ça peut être vous, madame. Est-ce que les gens de votre entourage vous perçoivent comme heureux? Ça peut être comme parent, ça peut être comme ami. Okay? Par contre, je ne veux pas vous culpabiliser, je ne veux pas vous sortir ici ce matin en disant « Écoute, je suis arrivé, j'étais de bonne humeur, puis je suis revenu, je me sens coupable. » L'idée, c'est de refaire les ajustements et prenez juste conscience des choses. Okay? Maintenant, on ne s'attend pas à ce que écoutez, si vous venez de vivre une tragédie et que vous souriez comme si rien n'était, ce n'est pas un signe de santé. Là, okay? Là, vous êtes dans le déni ou je ne sais pas où, vous avez fumé de quoi ou je ne sais pas quoi. C'est légal maintenant. La réalité, c'est qu'il faut que notre vie reflète ce que nous professons, ce que nous croyons, sinon ça ne passe pas, ça ne passe tout simplement pas. Je conclue. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Proverbe 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses. Donc, cette dimension de réfléchir, et c'est un peu ce à quoi je fais appel ce matin chez vous, votre capacité de réflexion. Vous arrêtez, vous dites, écoute, est-ce que vous savez là, que vous n'avez qu'une seule vie? Pas deux, pas trois. Puis est-ce que vous savez que vous avez une date de péremption? Est-ce que vous savez que ça va s'arrêter un jour? Maintenant, je sais, moi aussi, j'en suis. Plus je vieillis, plus j'en suis conscient. Mais la réalité, c'est qu'il faut faire de cette vie-là quelque chose qui est digne de valeur et digne d'honneur. Il m'a été donné une vie. Il m'a été donné une vie, pas deux. Si je fais ce que j'ai à faire, ça suffit. Il faut que je tire mon épingle du jeu d'un segment dans le temps et dans l'espace qui s'appelle ma vie. OK? Mais l'avantage que nous avons, vous et moi, c'est que dans cette vie-là, on a reçu quelque chose de plus. On a reçu sa vie dans ma vie. Donc, il faut absolument que ça change quelque chose. Et ça doit changer quelque chose. Et ça devrait changer quelque chose. Et quand ça n'est pas là, il faut s'arrêter et réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce qui ne va pas dans ce que je fais? Qu'est-ce que je fais que je ne devrais pas faire? Qu'est-ce que je ne fais pas que je devrais faire? Qu'est-ce que... Dans plein de domaines, c'est juste une réflexion spontanée comme ça pour dire, écoute, il faut que je réajuste quelque chose dans ma vie. L'Ecclésiaste reprend la même pensée. Il dit, au jour du bonheur, sois heureux. Jouis de ce bonheur-là. Apprécie ce bonheur-là. Okay? Et au jour du malheur, réfléchis. Considère ces moments d'épreuve, ces moments de difficulté, ces moments de souffrance, ces moments de tragédie parfois même, pour réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais? Et vous savez, la réflexion, c'est fondamental, c'est important, mais c'est quelque chose qui se perd avec les années. Je vous le dis, je ne dis pas ça de façon condescendante ou quoi que ce soit. On n'apprend pas beaucoup à réfléchir dans la vie. Dans la vie moderne. On apprend à réagir, on apprend à acheter, à travailler, à bosser. On est toujours dans un mode de fou. Okay? Puis, je dirais que l'avantage qu'on a, nous, comme chrétiens, c'est que s'il y a des gens qui peuvent s'arrêter pour réfléchir, c'est nous, parce qu'on croit à la prière, on croit à la méditation, on croit à la lecture de la parole de Dieu, en autant que ça n'est pas ritualisé ou fait du bout des lèvres sans réflexion profonde. La sagesse dans l'idée de Proverbes, la réflexion dans l'idée de Proverbes plutôt est rattachée à la sagesse. Celui qui est sage réfléchit aux choses. Et voici l'avantage que nous avons. Donc, au jour du bonheur, j'en profite. Waouh, c'est super, merci. Puis au jour du malheur, il faut que je m'arrête et que je réfléchisse. Qu'est-ce que je dois rajouter dans ma vie? C'est peut-être avec moi-même. C'est peut-être dans ma relation avec Dieu. Peut-être que je l'ai perdu de vue. Peut-être qu'on s'est échappé. Peut-être que c'est dans ma relation avec les autres. Le problème dans la vie moderne, là, vous avez beau prendre n'importe quoi pour apaiser vos anxiétés, OK? Ça va apaiser, ça va... Ce matin, si certains d'entre vous, là, identifiez-vous pas, certains d'entre vous prenez des médicaments antidépresseurs ou anxiolytiques, là, je ne pensais pas que je suis en train de vous juger, je comprends très, très bien. Ce que je dis, c'est que ça apaise, mais ça ne règle rien, OK? Puis ça, votre médecin va vous le dire, OK? Il faut soigner nos relations. Peut-être que c'est dans ce domaine-là que vous avez besoin d'ajustement. Réfléchissez à votre mariage. Réfléchissez. On est toute cette journée aujourd'hui sur le mariage et demain sur la famille aussi. Il faut réfléchir à tout cela. Okay? Est-ce que je rends ma femme heureuse? Est-ce qu'à la fin de ma vie, ma femme pourrait dire la même chose qui me soit arrivée dans ma vie, c'est d'avoir rencontré Denis Morissette? Ou elle va dire, fou, enfin. Okay. Qu'est-ce que je contribue? Qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je dois résoudre, qu'est-ce que je dois dénouer. Ça peut être dans des relations, ça peut être avec vos enfants, ça peut être un conflit à quelque part. Maintenant, la paix fait partie de cette dimension de sainteté rattachée au bonheur. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit. Donc, ça, c'est des éléments du bonheur. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Est-ce que je peux vous demander de pencher la tête, de fermer les yeux juste quelques instants? Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ce temps ce matin. Seigneur, merci pour cette auditoire. Je les vois réceptifs, Seigneur, à ce que tu veux leur enseigner par ton esprit, oh Dieu. Seigneur, je prie que tu parles à leur cœur en ce moment. Je prie qu'ils saisissent ton désir le plus intense comme Père céleste, c'est que tes enfants soient heureux. Mais Seigneur, tu ne peux pas leur donner un bonheur sans qu'ils réaménagent leur vie, sans qu'ils changent les choses dans leur vie. Parce que le bonheur ne durera pas, ne pourra pas rester. C'est comme quelque chose d'impossible. Mais Seigneur, tu leur parles ce matin, tu leur montres à dénouer des choses, à régler des choses avec eux-mêmes. Seigneur, c'est ton désir. On a la véritable question, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire de plus? Les béatitudes, Seigneur, c'est un peu comme une prescription. Fais ceci, tu auras cela. Heureux ceux qui pleurent, qu'ils seront consolés. On console ceux qui pleurent, on ne console pas ceux qui ne pleurent pas, on ne console pas ceux qui sont fâchés, on ne console pas ceux qui sont aigris par la vie. On s'en éloigne. Les larmes nous montrent, Seigneur, la fragilité de notre nature, et c'est là qu'on s'approche les uns des autres, pour consoler. Et c'est ce que tu fais avec chacun de nous. Quand on pleure devant toi, Seigneur, tu es le divin consolateur. Et par la consolation dont on est l'objet, on peut aussi nous consoler les uns les autres, se consoler les uns les autres. Seigneur, pose ta main sur eux. Seigneur, je prie que cette journée soit une journée bénie, constructive, positive, dans, encore une fois, cette recherche d'une vie à deux dans laquelle on va s'épanouir ensemble avec toi. C'est dans ton nom précieux que j'ai prié, Jésus, maintenant. Amen et amen, amen et amen.
Merci. Ça va? Première session. Il y en a encore deux autres sessions qui vont suivre, n'est-ce pas? Alors, pendant ce temps, nous sommes rendus à la partie des questions. Alors, avant d'arriver là, j'aimerais m'excuser parce que le programme qu'on vous a donné, notre imprimante ne fonctionnait pas. Il y a eu des mélanges dedans, on a essayé d'imprimer. Finalement, c'est sorti, donc c'est pourquoi je vous ai donné présentement. Alors, pour que vous soyez au courant de ce qui va suivre. OK? Hein? Vous allez suivre folle. Alors, donc, on veut être heureux, n'est-ce pas? Si on est ici, c'est parce qu'on veut avoir des couples heureux. Quelqu'un a dit ceci, avant que les questions ne viennent, et dit, il existe deux façons d'être heureux. Améliorer notre réalité ou ajuster nos attentes. Hein? C'est intéressant, mais l'auteur est inconnu. Un autre que j'ai trouvé intéressant, qui vient de Winston Churchill, on dit comme ça, Churchill? Churchill. Bon, c'est un nom compliqué, Churchill. C'est le premier ministre anglais au temps de la Deuxième Guerre mondiale. Il a dit ceci. Il dit, le succès n'est jamais final et l'échec n'est jamais fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Le succès n'est jamais final Et l'échec n'est jamais fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Alors nous avons tous connu des problèmes dans nos couples, des difficultés, mais nous croyons que nous pouvons continuer, que ça va marcher. Amen. Que ça peut changer. Alors, donc, ce matin, on a une période de questions, Denis, comme l'année passée, et comme on continuera dans l'avenir aussi de la même façon, s'il faut changer ou améliorer notre programme. Alors, nous aimerons quand même être clairs sur ça, que si vous voulez parler, poser des questions, vous pouvez poser des questions, il le répondra avec sagesse. Mais si tu penses qu'il y a des questions que tu vas poser qui vont mettre mal à l'aise ton conjoint ou ta conjointe, peut-être vous devez en discuter avant de parler ou bien mieux de ne pas en parler. D'accord? Parce que présentement là, il va répondre à des questions, mais ce n'est pas la place pour faire la clinique. Hein? Vous pouvez aller chez lui dans sa clinique, il pourra... D'accord? Bien. Merci. Si vous avez des questions par rapport au sujet qui vient d'être parlé ou d'autres choses qui vous viennent à l'esprit.
Bon, Denis. C'est bon, j'ai déjà mon micro, merci.
Il y a déjà ton micro, oui. Donc ça peut aller.
Oui, Benoît Fortin. Lorsque vous parlez de
l'esprit... On est rendu au printemps, là, il y a de moins en moins de glace.
Ouais, hein. Elle retourne encore chez vous. À Montréal, il y en a plus. Mais, lorsqu'on parle d'être capable d'analyser un peu une espèce d'introspection par rapport à différents domaines où on pense qu'effectivement, il y a des choses à corriger, est-ce que vous allez aborder le volet maintenant, oui, comme individu, moi, je le fais par rapport à moi, je le fais par rapport à ma conjointe, mais je le fais aussi par rapport... Je devrais le faire par rapport à...
La relation avec Dieu.
Exactement.
Ouais.
Parce que, en tout cas, c'est une question que vous allez...
Non, mais je vais répondre à ta question. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode de l'Évangile de Luc, je crois que c'est au chapitre 10, de mémoire la référence, où un docteur de la loi s'approche de Jésus pour le mettre à l'épreuve, lui dit « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? » Jésus lui répond « Mais qu'est-il écrit dans la loi et qui dis-tu? » Il lui répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ta face, ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui a dit « T'as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Le problème avec ce texte-là, c'est que quand nous, on entend le mot « vie éternelle », on pense toujours à la vie après la vie, au ciel. Mais le texte ne porte pas sur ça. Parce que si c'est ça, mais la réponse ne concorde pas avec ta question. La réponse, c'est « Tu aimerais Seigneur ton Dieu. » Okay? Quand je suis dans l'éternité, je n'ai plus besoin de mes yeux et de mon prochain comme moi-même. On est dans un autre état. Et quand il dit « Fais cela et tu vivras. » Donc, ici, on remarque dans ce texte-là, il y a trois axes. Ma relation avec Dieu, ma relation avec les autres, et ma relation avec moi-même. Alors, le premier diagnostic qu'on doit faire, c'est où ça ne marche pas. Des fois, ça ne marche pas avec l'autre, des fois, ça ne marche pas dans ma relation avec Dieu, puis des fois, ça ne marche pas dans ma relation avec moi-même. Et c'est là qu'on a les prémices d'ajustement ou de correctif qu'on doit faire dans notre propre vie. Ça répond?
Merci. D'autres questions? Oui, Karine Lacerte.
Moi, Julie, je n'ai jamais chanté, je n'ai jamais utilisé le micro. Tantôt, vous disiez que le bonheur, les gens qui n'ont pas vécu des choses difficiles sont moins enclins à trouver le bonheur facilement non. Versus des gens qui ont vécu un drame.
Non, je dis le bonheur, vous devez comprendre qu'une partie de votre bonheur est rattachée aussi. Le pauvre, il aspire à quoi, lui? À la richesse, celui qui est seul aspire à la rencontrer. Donc, le bonheur, il se localise aussi un tout petit peu là, dans ce qui nous manque. Et je dis que les gens qui, souvent, n'ont pas beaucoup d'épreuves, leur bonheur devient compliqué, complexe. Pensez à des enfants gâtés. Là. Les enfants gâtés, là, sont-ils heureux? Là? Ah, vas-y, pas ça, j'ai rien à faire. Okay? Tandis que d'autres, j'en parlais avec une de mes amies, ça fait un peu, on radote sur le passé, mais moi, là, j'ai passé mon enfance à jouer dans la forêt, à construire des choses, à jouer dehors, à jouer au ballon, à jouer à patinoire. De nos jours, là, c'est d'accord avec moi que le bonheur est rendu un peu plus compliqué que ça. Là. Je n'ai pas le dernier nouveau jeu sur Xbox 360, là, je ne suis pas heureux. Là. Okay? Donc, je dis souvent, quand on était éprouvé par la vie, on s'aperçoit que ça épure quelque chose. Nos attentes, on devient beaucoup plus réaliste, beaucoup moins compliqué et tout ça. Les gens qui voyagent beaucoup, là, qui ont beaucoup de cash, qui vont dans le sud, là, dans des 5 étoiles, là, vous avez remarqué, là, je ne peux pas généraliser, ils sont souvent désobligeants. Quand tu n'as jamais voyagé, puis tu as la chance d'aller à Riviera Maya, t'en profites. Tu dis, wow, qu'est-ce que je vis en ce moment? OK, je sais que je suis bronzé, mais je n'arrive pas de la rivière à Mayan. J'arrive d'ailleurs, mais pas de là. Tu vois, c'est juste, et c'est pas qu'ils n'ont pas accès au bonheur, c'est que le bonheur devient compliqué, complexe. Là, tu vois, c'est difficile à satisfaire. Puis quand on est épuré par des épreuves de la vie, on se contente de choses différentes, des relations, de bons moments et des choses comme ça. Est-ce que ça répond?
Dans le fond, j'avais comme une petite bémol de dire, tu sais, ben, je constate par rapport à des gens qui ont eu une vie, peut-être une enfance un peu plus facile, puis on dirait qu'ils sont plus faciles à voir, à être heureux des petites choses, versus quelqu'un qui a vécu très jeune, peut-être des tragédies, ouais. Des épreuves, là, vont avoir une certaine réticence ouais. À...
Bon, là, on rentre dans, c'est une bonne question. Là, on rentre dans une question inverse de gens qui ont été éprouvés très, très tôt dans la vie, qui fait qu'à quelque part, leur état intérieur, ils sont malheureux, là. Ils sont intérieurement malheureux, OK, bien qu'ils ne sont plus dans la situation tragique nécessairement, mais le fond est là, OK? Il y a un travail de restauration, un travail de rétablissement. Il faut qu'ils... Parce qu'eux, ils ne croient plus au bonheur non plus, hein? Puis ils m'entendent comme ce matin, là, puis... Les volets sont fermés, ils ne croient pas que c'est possible. Okay? C'est pour ça que j'insiste sur le fait de heureux ceux qui souffrent, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Jésus, quand même, fait un lien entre le bonheur et mais ce n'est pas tout le monde qui souffre, ce n'est pas tout le monde qui pleure, ce n'est pas tout le monde qui est en deuil, ce n'est pas tout le monde. Tu vois? Donc, je ne veux pas généraliser dans ce concept-là. Ouais.
D'autres questions?
Cet après-midi,
est-ce qu'il va aborder le bonheur et les attentes ouais. Parce que les gens n'avaient pas entendu en arrière.
Je vais probablement faire allusion cet après-midi. Dans le, ouais. Parce qu'effectivement, le bonheur est. Quand les attentes sont démesurées, le bonheur est dur à atteindre. Si vous croyez que vous allez être heureux quand vous allez, vous allez avoir un milliard de dollars d'argent, je vous annonce que vous allez être malheureux parce que vous ne l'aurez pas. À moins que vous appeliez.
Oui.
À moins que vous appeliez Adama.
J'avais une question.
Okay. OK. Autre question.
D'autres questions, s'il vous plaît.
Oui.
Oui, il y a quelqu'un à côté. Gilles.
Quand tu affiches ces versets-là, tu nous invites à la réflexion
oui.
Dans les deux versets. Oui. Tu as parlé d'introspection tout oui. À l'heure. Ce n'est pas toujours des concepts qui sont faciles à comprendre et à mettre en œuvre. L'introspection, oui. Est-ce que tu vas développer davantage
non, cette question? Non, pas cet après-midi, mais je peux en parler en ce moment. Ce qu'on appelle littéralement l'introspection, c'est la capacité de réfléchir sur soi. OK? Là, si vous me permettez, j'aime pas ça parce que ça me fait sentir vieux. Là, okay? Mais quand j'étais petit, moi, à l'école primaire, avant Pâques, okay, dans la semaine sainte, okay, les plus jeunes ne savent pas ce que ça veut dire, non, mais les plus vieux de ma génération, vous savez c'est quoi. Je me souviens que dans la classe, puisque la société québécoise de l'époque était très religieuse, on est dans les années 60, on faisait ce qu'on appelle un examen de conscience. Où on regardait nos graves péchés. Vous savez, dans la deuxième, troisième année, on avait des méga péchés. Hein? OK? La réalité de tout cela, c'est quoi? C'est que ça nous prédisposait à la réflexion sur soi. Qu'est-ce que je fais que je ne devrais pas faire? OK? J'ai menti à ma mère hier. J'ai piqué un biscuit dans un jarre à biscuits. OK? Mais ça amène à la réflexion. De nos jours, là, dans l'effervescence de la vie, les gens, encore, je veux pas apparaître un peu comme pessimiste, mais il n'y a pas je veux pas généraliser, il y a plein de gens qui réfléchissent aussi, mais regardez quand vous allez en vacances ou partez dans le bois là, une semaine, là. Je vous annonce, vous allez commencer à réfléchir. La machine va repartir. Mais dans l'effervescence de la vie de tous les jours, on fonctionne dans un mode semi-conscient. OK? Parce qu'on est préoccupé par toutes sortes de choses. Ouais. Donc, il faut prendre ces temps d'arrêt-là. Et dans ce qu'on appelle l'introspection, c'est le retour qu'on fait sur soi à partir de soi-même. Ce n'est pas du nombrilisme, ce n'est pas de regarder le nombril, c'est de réfléchir, de supposer sa vie. Et je reviens à ce que je mentionnais tout à l'heure, nous, on est dans un univers idéal pour ça, parce que dans l'univers chrétien, dans la pensée biblique, il y a ces temps de réflexion. Pourquoi pensez-vous que Dieu envoyait ses prophètes dans le désert? Pourquoi dans le désert? Il n'y a rien. De nos jours, vous n'avez jamais rien. Le rien n'existe pas. Nos téléphones... J'allais de voyage, là. J'étais... Tout le monde à l'aéroport sont branchés sur leur téléphone. Tout le monde, c'est à beach. Ils ont tous leur téléphone. Ils sont tous, OK? On n'a pas de moment de vide qui nous amène à nous retrouver face à nous-mêmes et face à Dieu et aussi face à tout ça. Donc, c'est pour ça que... Bon, maintenant, l'introspection, ça a des limites aussi. Hein? On a beau réfléchir sur soi, ça prend plus que cela. Et l'autre réponse à cela, c'est dans l'interaction. OK? Il faut pouvoir discuter ensemble. Il faut avoir des... Ça se fait dans le mariage. Chérie, qu'est-ce que tu penses? Comment tu me vois? Avoir ce genre de discussion-là, parce que nos femmes et nos maris voient des choses en nous que nous ne voyons pas. Okay? Dans nos réactions, dans nos actions, dans nos inactions. Et parfois, ce sont des amis. Moi, je suis privilégié. J'ai d'excellents amis depuis longtemps, qui fait que quand on a des discussions, là, on a des discussions sérieuses et profondes sur soi, sur des choses comme ça. Donc, ça l'ouverture au feedback, l'ouverture à la rétroaction extérieure, c'est quelque chose qui nous amène à faire des correctifs dans notre vie aussi. Okay? Donc, il y a l'introspection, puis il y a aussi l'ouverture au feedback.
Merci, Denis. D'autres questions? Benoît, tu voulais? OK. D'autres questions? On a encore le temps, hein? On a encore 10 minutes encore devant nous.
J'aimerais vous dire là, que votre mal d'être à certains moments de votre vie ou votre malaise intérieur et tout ça, est-ce que vous savez que c'est une communication? Okay? C'est la lumière qui allume sur le tableau de bord qui vous dit il y a quelque chose qui ne marche pas là. Okay? Dans votre état intérieur, qu'est-ce qu'il faut que je corrige? Qu'est-ce qu'il faut que j'ajuste? Puis, encore une fois, c'est pas énorme, là. Je suis pas dans les scénarios les plus catastrophiques. Je suis juste, écoute, là, pourquoi je suis comme ça? Mais ça, encore une fois, ça peut être le surmenage, ça peut être. Puis faut regarder. Quand la lumière rouge allume sur le tableau de bord, là, donnez pas un coup de poing sur votre tableau de bord pour la faire éteindre. Okay? Parce qu'elle est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est marqué check engine. T'es peut-être mieux d'aller au garage, OK? Si sa lumière d'huile qui allume ou, je sais pas, votre ordinateur, là-bas, écoutez ça, parce que ça vous donne un message qui est important pour la santé de votre voiture et de votre portefeuille.
Y a-t-il d'autres questions? C'est le temps pour cela, donc si vous n'en avez pas présentement... Ah, OK, je pense que quelqu'un voulait, mais il parle avec sa femme, je n'ai pas compris.
Il y a quelqu'un.
Oui, mon frère, Jean-Guy. Je reprends la question parce que tout le monde n'a pas entendu, okay. S'il te plaît.
Au jour du bonheur, sois heureux. Ouais. Alors, aujourd'hui, je suis heureux. Versus la crainte du lendemain, ouais. L'inquiétude du lendemain, ouais. Aussi, tout ça. Ouais. Et tout ça pour dire qu'on entend souvent des gens dire « Ah, ça va bien, mais ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Il va arriver quelque chose. Ouais. » Alors, comment réfléchir sur ça?
OK, bonne question. Premièrement, je suis d'accord avec le texte. Au jour du bonheur, il faut en profiter. Okay? Maintenant, il ne faut pas assombrir notre bonheur dans la perspective de le perdre. Okay? Il faut carpe diem, il faut jouer du moment présent, il faut saisir ce moment-là. La peur du lendemain, okay, c'est une peur imaginaire. Ce n'est pas réel. C'est l'anticipation de quelque chose dont on ne sait même pas si ça va se produire. Okay? Puis là, je vais vous donner un petit principe. Les gens me posent souvent la question, « Pasteur Denis, croyez-vous sincèrement que tous les problèmes peuvent être réglés? » La réponse est oui, sauf un, le problème imaginaire. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas. Il n'existe que dans ma pensée. Où je vais être dans 5 ans, dans 10 ans, si je vais tomber malade et tout ça, ça, c'est des anxiétés, mais ce n'est pas dans la réalité. C'est parce que je ne suis pas malade, parce que je ne suis pas demain encore, je ne sais pas. C'est l'anticipation de demain qui me fait peur. À ce moment-là, là, on est dans un autre univers. Par contre, le point qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, beaucoup de gens n'apprennent pas à vivre dans le moment présent et de jouer du moment. Moi, je suis conscient qu'on est comme humain, on a le passé et on a le futur. Là. Mais il faut apprendre à apprécier tout cela et pas nécessairement appréhender les choses. Mais ça, c'est une discipline aussi. Hein. Et quand on vieillit, on a plus d'appréhension que lorsqu'on est jeune parce qu'on est plus conscient. Par contre, il ne faut pas que notre conscience soit de l'hyperconscience parce qu'on ne vivra plus. Okay? On a vivre, trop de conscience, c'est comme pas assez de conscience. C'est comme le gars qui arrive chez Jean Coutu, puis c'est marqué, on y trouve de tout, même un ami. Est-ce que vous auriez un ami pour moi chez Jean Coutu? Excuse-moi, il n'y a pas d'amis chez Jean Coutu. Là. Puis Jean non plus, il n'est pas votre ami. Il veut votre bien, il va l'avoir. Comprenez ce que je veux dire? Le sens que c'est de l'hyperconscience, là. C'est juste trop, c'est un slogan publicitaire, là, OK? Bon. Donc, dans l'appréhension du futur, puis je viens de fêter mon anniversaire il y a 2 semaines, là. Et merci. Non, mais je ne disais pas ça. J'aurais dû vous avertir d'avance. J'aurais peut-être pu avoir des cadeaux. Mais non, mais l'idée, c'est que tu prends conscience de le temps passe. Puis crois-moi, c'est une super question, là. Parce que moi, j'ai perdu mon père, il avait 49 ans. Ma mère est décédée à 61 ans. Ma femme à 54 ans. Mon frère à 64 ans. J'ai des... Je ne suis pas dans le mode d'innocence, mode de ne pas savoir ce qui est susceptible d'arriver. Là, okay? Mais je ne vais pas là. Pourquoi? Parce que je vais un peu saboter mon propre bonheur. Il faut que j'en profite. Je suis heureux le temps que ça dure. Puis ça ne veut pas dire qu'on va être malheureux après coup non plus, mais il y a des petits bobos. Hein?
Et Denis, pour te dire que ce que tu dis, ouais. Un petit truc pour ajouter dessus. Mon beau-père, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Dans sa famille, les gens sont morts avant 70 ans.
Ouais.
Beaucoup. Et puis, il avait peur. Dépassé les 70 ans, quand ça arrivait, il avait trop peur. Il pensait qu'il ne passerait pas. Présentement, il est rendu à 87 ans.
Ouais.
Dit, tu vois, donc, on anticipe trop des fois. Puis, pas facile. Oui, Anne Latour voulait poser une question.
Du bonheur qu'on parlait un petit peu, justement, parler un peu plus justement des pensées.
Ouais.
Souvent, justement, dans l'entretien des pensées.
Ouais.
On est dans un monde très occupé. Ouais. Je me cours comme une poule sans tête. Je suis fatiguée, je suis trop chargée. Est-ce qu'il y a peut-être un danger à se questionner au niveau de nos pensées qui peut être...
Oui, absolument. J'aimerais vous dire, vous allez voir cet après-midi, je vais faire entre les deux sessions, je vais faire une petite présentation. Okay. Moi, je pense que je suis assez, dans ma nature, assez réaliste, probablement à cause de la vie, puis à cause de mes expériences, puis à cause des contacts que j'ai eu avec les gens dans les conditions de leur vie, pour comprendre que dans le contexte de la vie moderne, dans le contexte de la vie en général, si on n'apprend pas à gérer notre vie, si on n'a pas de ce que j'appelle apprendre à gérer les affaires de la vie. Quand je parle d'affaires, je ne parle pas nécessairement de vos finances. Je parle des relations, tout ce qui contribue à la vie. Et ça commence à l'intérieur ici. Tout procède dans la vie de l'intérieur vers l'extérieur. Okay? La gestion des... D'ailleurs, c'est le problème chez les personnes anxieuses, c'est le problème chez les personnes dépressives, on sait ce qui se passe ici. Là. On est capable de voir comment... Ce qui se passe, c'est pas simplement les problèmes de sérotonine et tout ça. Là. C'est la gestion des pensées. Ils ont une façon de voir, de concevoir la vie qui doit changer. D'ailleurs, la Bible dit, Romains chapitre 12, verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Le mot « intelligence » qu'elle a, là, c'est pas le quotient intellectuel, là. C'est le mot grec « nous » qui veut dire « pensée, concept, façon de concevoir ». Donc, la façon dont on conçoit les choses affecte la façon dont on vit les choses, comment on réagit. La façon dont on conçoit la femme affecte notre relation avec les femmes. La façon dont on conçoit les hommes, la façon dont on conçoit la vie, ça affecte le déroulement de notre vie. On n'est pas dans la magie, là. On est dans la manifestation, la construction à partir des choses. OK? Je donne un exemple. Souvent, quand je suis en entretien avec quelqu'un, des fois, j'ai un moment de pause, je leur dis, fermez les yeux quelques secondes. Là, je leur dis, quand vous pensez à la vie, qu'est-ce que vous, spontanément, vous éprouvez? La personne me dit, c'est comme une charge que je traîne, que je tire, comme un fardeau. Puis vous regardez la personne, bien, elle est fatiguée, elle est... C'est comme, bon, est-ce que la vie, c'est quelque chose que l'on tire, comme un poids? Est-ce que tout le monde a l'impression que la vie, c'est un poids que l'on tire? Non. Donc, c'est une représentation qui est personnelle. D'autres vont dire, la vie, c'est comme un mur. J'essaie d'avancer, puis je suis toujours en train de me frapper la tête sur le mur. Est-ce que tous les gens voient la vie comme un mur? Non. D'autres vont la voir comme une opportunité. D'autres vont voir la vie comme un voleur. À tous les fois que je suis sur le point d'avoir quelque chose, je le perds, je me le fais enlever, quelqu'un me pique, une opportunité, un poste, voyez-vous? Donc, on en vient à se créer une représentation des choses qui doit être revue parce que c'est une fausse représentation. C'est la vie qui crée ça, puis nos expériences de vie qui arrivent à conclure ça. Mais maintenant, tu parlais de ton beau-père, là, qui a 87 ans. Mon beau-père a 90 ans. Il va avoir 90 ans dans quelques mois. Là. Et moi, mon père est mort à 49 ans. Moi, j'ai une famille de quatre garçons. J'ai quatre garçons, mais j'ai une famille de quatre garçons. Je suis quatrième de quatre. Et tous les quatre, quand on est arrivé à 48 ans, puis notre fête de 49 ans, on a tous vécu une légère anxiété. OK? Pourquoi? À cause de l'espèce de marque, de la barrière, la limite. On est dans la représentation de quelque chose, on n'est pas dans la réalité. On a tous dépassé ça. Là. Mon frère aîné a 70 ans maintenant. Mais, voyez-vous, c'est psychologique tout cela. Donc, dans la représentation de la vie, dans la gestion des pensées, il faut mettre ça en lumière de façon à comprendre qu'on est. Quelqu'un a dit un jour, on n'est jamais mieux asservi que par soi-même. C'est nos pensées qui nous asservissent dans des moments comme ça.
OK. Merci beaucoup, Denis. Alors, on va passer à la prière pour le dîner. Je vais demander à Benoît de prier pour ce temps. Et puis, ça va nous donner 10 minutes pour pouvoir placoter entre nous en attendant. Ça peut aller? Bien. OK. Denis. Et je dis Denis. Benoît, s'il vous plaît.
Seigneur notre Dieu, on veut tout d'abord juste te remercier pour ce bon temps que tu nous as donné ce matin. Merci de ce que ta parole est là pour nous rappeler des si grandes vérités. Seigneur, on se doit d'appliquer ces vérités-là maintenant dans nos propres vies individuellement, dans notre couple aussi, Seigneur. Et tout ça, tu le fais pour notre bien. On te remercie de ce que tu ne nous laisses pas orphelins au travers de cela, parce que tu nous accompagnes justement dans ce cheminement-là. Notre Dieu, tu prends soin de notre âme, et on veut vraiment t'en remercier, mais tu veux prendre soin aussi de notre corps, et c'est pour ça qu'on te rend grâce pour la nourriture que nous allons prendre, et on te prie pour que tu puisses continuer à bénir nos conversations aussi, et de nous préparer pour cet après-midi aussi, et de bien diriger notre conférencier. Et c'est dans le nom de ton Fils, Seigneur, qu'on t'en prie. Amen.
Amen. Alors, et pendant ce temps, pendant la conférence, si jamais vous avez remarqué des choses que nous pouvons améliorer la conférence dans les années à venir, ben venez nous voir, moi ou Suzanne ou d'autres personnes, et on pourra améliorer cela. Merci. Bye bye.